Et tout de suite, voici donc une archive de Radio Courtoisie. Il s'agit d'un libre journal de Serge de Bekech du 24 février 1999. Vous écoutez Radio Courtoisie, très belle nuit à tous. Il est tout juste 2 heures. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 24 février 1999, rediffusée dimanche 17 janvier 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir. Après ce générique Edwige Feuillérien.
C'est bien. Ma voix aurait-elle baissé par hasard?
On va attaquer cette émission lâchement dans le dos, parce qu'elle va être longue et difficile. Je le signale tout de suite à mes nombreux admirateurs. Si vous parlez, Guillaume, parlez dans le micro, parce que non seulement ce que vous dites est irritant, mais les auditeurs ne le comprennent pas, ce qui les irrite doublement. Alors, vous avez donc entendu que François Guillaume est revenu, après une bouderie que je ne m'explique décidément pas.
Vous avez dit que vous l'aviez mis au coin, les mains sur la tête. Ah, vous avez avoué.
Quoi,
c'est vous qui l'avez fait.
Vous avez rêvé.
Comme si j'étais autoritaire, en plus. Alors, autour de ce micro, donc François Guillaume, vous avez entendu. À ma droite, Arnaud Guyot-Janin, qui nous parlera tout à l'heure d'un ouvrage qu'il vient de consacrer à un opuscule, peut-on dire, qu'il vient de consacrer à Drieux-La Rochelle.
C'est plus qu'un opuscule.
Plus que, comment vous appelleriez ça, vous qui êtes,
un essai.
Un essai.
Le petit livre.
Un libricule, alors.
Voilà, donc, c'est ça bien. Fait minuscule.
Voilà. Bon, et puis nous recevrons Eric Arzel, qui est journaliste, qui nous parlera de des chasseurs, des relations entre chasseurs et Madame Voinette. Nous recevrons Dominique Tassot et Monsieur Prival, qui nous parleront du CEP, qui est le Centre d'études et de prospectives sur la science. Nous recevrons également Guy Le Hideux, qui nous parlera de bande dessinée. Nous recevrons Pierre-Marie, qui est professeur de piano, qui a inventé une méthode qui permet de jouer du piano, de s'amuser avec un piano à la fin de la première leçon. Et ça m'a tellement stupéfait, comment vous diriez ça, étonné, allez hop, ça m'a tellement étonné que j'ai essayé et ça marche. Et heureusement, il n'y a pas de piano à la maison, ce qui fait que j'épargne mes proches, mais voilà. Et puis nous recevons, alors pour commencer, deux personnes que vous connaissez déjà, puisque nous les avons déjà reçues dans cette émission, à propos de l'affaire Beljanski. Et je leur ai demandé de se réexprimer ce soir à propos du dossier du procès du sang contaminé. Moi, je ne suis pas d'accord avec les commentateurs qui trouvent que ce procès est un scandale, est un délit de justice, est une caricature digne des tribunaux communiques. Je ne trouve pas ça du tout. Je voudrais remercier les initiateurs de ce procès. Parce que c'est probablement la plus belle leçon de démocratie qu'on pouvait rêver. Voilà comment fonctionne la démocratie. Vous voyez, la démocratie porte pinacle à son mieux qu'à son pinacle, à son apogée, à son zénith. C'est ça, c'est un procès dans lequel l'État est à la fois le juge, l'avocat, le plaignant, l'accusé, le procureur.
Oui, mais le procureur qui conclut à la relaxe.
Et qui conclut à la relaxe, bien entendu. Le gendarme qui surveille à l'entrée. Et donc, tout ça est formidable. Et l'argent, si par hasard, les hommes de l'État sont condamnés à une amende, on la prendra dans la poche gauche de l'État pour la mettre dans la poche droite de l'État.
Non, c'est dans notre poche qu'on la prend.
C'est dans notre poche, d'ailleurs. Donc, première leçon, première constatation. Merci à M. Fabius, et Hervé, et à Mme Dufoy pour nous avoir permis d'assister à cette magnifique leçon de démocratie dans laquelle le peu de considération que j'avais encore pour la justice en France et le peu de considération que j'avais encore pour les parlementaires sont partis comme au fond d'une cuvette quand on tire la chasse d'eau. Pourtant, c'était pas très difficile. On demandait pas grand-chose. On demandait simplement un procès qui aurait rendu justice aux victimes. Et j'ai une de ces victimes en face de moi, qui est Mme Boquet, qui est une victime tout à fait particulière, parce qu'elle est, je dirais, doublement, voire triplement victime. On verra pourquoi tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une personne qui, d'abord, a été victime d'une contamination du sida et de l'hépatite C à la suite d'une transfusion consécutive à une intervention chirurgicale lourde. Ensuite, elle a choisi de se soigner par le traitement qu'elle avait décidé d'élire elle-même, ce qui est quand même un droit de citoyen libre dans ce pays libre. Il paraît qu'on est dans un pays libre. Moyennant quoi, elle a été arrêtée par les gendarmes. C'est les médicaments qu'elle avait achetés avec son argent lui ont été confisqués. Elle a été emmenée par des gendarmes mal humiditari pour assister à une perquisition qui avait lieu dans sa propriété, sa résidence secondaire. Et là, ensuite, ses médicaments ont été confisqués, ce qui fait qu'elle n'a pas pu se soigner. Elle a donc immédiatement eu une flambée de la maladie. C'est-à-dire que l'État, l'ayant raté la première fois, a essayé de la tuer une deuxième fois. Et ensuite, elle a été poursuivie et son mari a été mis en garde à vue longuement. Enfin, elle nous racontera ça. On y reviendra. On demandait à Fabius quoi, au fond. On lui demandait de faire son travail, c'est-à-dire d'informer les Français. À l'époque, d'informer les Français, notamment les intermédiaires naturels que sont les professionnels de la vie sociale et de la médecine, sur la réalité du sida, au lieu de mentir, comme ça a été fait à l'époque. Pas seulement, d'ailleurs, il faut le dire, par Fabius, Dufoy, Hervé et les socialistes, mais aussi par les autres socialistes qui étaient à l'époque censés être plus ou moins RPR ou UDF ou je ne sais quel avatar du socialisme. On leur demandait d'organiser une concertation, un colloque ou une rencontre de scientifiques et de professionnels de la médecine avec des consommateurs pour faire le point de la maladie, faire le point de l'action qu'on pouvait mener contre cette maladie. On leur demandait enfin de reconnaître le caractère endémique du sida et de décider de prendre des mesures préventives. Tout ça n'a pas été fait au nom du politiquement correct. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez dans des journaux qui ont été les premiers colporteurs du politiquement correct, des articles qui expliquent que le coupable, ce n'est pas Fabius, le coupable, ce n'est pas Dufoy, ce n'est pas Hervé, le coupable, c'est le politiquement correct. Or, moi qui ai le défaut d'avoir très peu de mémoire, je me souviens quand même qu'à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Le Pen, Jean-Marie, si je ne me trompe pas, et qui passait son temps à se faire insulter à longueur de journée parce qu'il disait tout simplement la vérité sur le sida et le danger de la contamination. Et l'État, et les hommes de l'État étaient beaucoup plus préoccupés de faire taire Le Pen que de dire aux Français la vérité sur cette question, sur ce drame de la contamination par transfusion sanguine. Il est intéressant de comparer l'attitude, d'ailleurs, entre parenthèses, il est intéressant de comparer l'attitude des hommes de l'État socialiste et laïque face au sida avec l'attitude des hommes de l'Église face à un fléau dans lequel, à l'époque, l'Église a joué un rôle très important, qui était la lèpre. Quand les hommes de l'État n'ont fait que participer consciemment à la propagation de cette maladie qui était le sida. Les hommes de l'Église, eux, se sont opposés par tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition à l'époque à la propagation de la lèpre, et ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour lutter contre la lèpre et pour aider les lépreux, alors qu'aujourd'hui, on voit Fabius, Hervé et Dufoy monter, parce que ce sont eux qui sont après tout les responsables de ça, si ce n'est pas eux, c'est leurs frères, ou leurs parents, ou leurs proches, ou leurs amis, monter, encore une fois, une caricature de justice, c'est même pas une caricature de justice, d'ailleurs, c'est le vrai portrait de la justice française, pour se dédouaner de toute responsabilité dans une affaire où ils sont littéralement les principaux responsables. Ou en tout cas, ils auraient dû avoir ne serait-ce que la pudeur et la correction, je veux dire, il n'y a pas de mot moins fort que ça, la correction, d'admettre leur responsabilité, de faire amende honorable, de demander pardon, puisque l'époque est en repentance en ce moment. Eh bien, voilà une belle occasion pour Fabius de rendre repentance pour repentance. Je crois que maintenant, il est temps pour les Français qui sont encore... Je parle de ceux qui ont encore gardé un tout petit peu de lucidité, de tirer les leçons d'un scandale qui est probablement le plus grand scandale du siècle. Parce que c'est un assassinat légal pour des raisons économiques, pour des raisons bassement commerciales. Revenons là-dessus. Gérard Veldlich va nous en parler tout à l'heure. Et je crois que c'est ça le fond du problème. Il ne s'agit pas d'une affaire de morale, il s'agit d'une affaire de sale fric. Les mafias pharmaceutiques ont imposé le silence sur cette affaire pour pouvoir vendre leur cam, de même que les mafias pharmaceutiques ont tué le professeur Beljanski parce qu'il avait commis le crime d'inventer un produit qui est à la fois efficace et peu coûteux. Et évidemment, ça ne les arrange pas du tout. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, les Français doivent tirer les leçons de ce scandale. Ils doivent... comme le dit d'ailleurs le choix du peuple français dans un tract publié récemment et qui est distribué régulièrement devant le lieu où se passe le procès, récuser la haute cour qui n'est pas conforme au droit constitutionnel, ça a été démontré, Alexandre Chabanis l'a démontré la semaine dernière dans l'émission qu'animait Daniel Amiche. Et ils doivent d'autre part demander... donc la récusation de la haute cour qui n'est pas conforme au droit constitutionnel, ils doivent demander aux parlementaires siégeant à la haute cour de reconnaître que selon la constitution, la confusion des pouvoirs est entretenue entre le judiciaire et le législatif à travers cette parodie de justice, que la cour de justice dans sa composition n'est pas conforme au droit constitutionnel pris dans l'article 68 alinéa 1, que les socialistes sont impliqués en tant que parti politique au pouvoir et en tant que parti de gouvernement dans l'affaire dite du sang contaminé, et qui ne peuvent pas être à la fois impliqués en tant que partie prenante et accusée, et être impliqués en tant que juge, parce qu'on ne peut pas être à la fois jugé parti dans un procès. Or, il y a des parlementaires socialistes dans cette cour pantalonesque, et ils doivent demander également, les Français doivent demander aux parlementaires siégeant à la Cour de justice de la République d'avoir la décence de démissionner de cette cour. Ça, c'est ce que demande le choix du peuple français, qui appelle en outre les Français à soutenir les victimes innocentes des politiques de la santé socialiste. Et socialiste, ça ne veut pas dire forcément du PS, en ce qui me concerne. Je crois que socialiste, ça veut dire tous les gens qui se sont succédés au pouvoir pratiquement depuis la libération, depuis 1945. J'ajoute pour mon compte que j'aurais très envie de faire une proposition, mais comme je ne serais pas capable d'en assumer les conséquences, je la ferai simplement sous une forme évocatrice. C'est que puisque ce procès était à l'évidence une mascarade, et puisqu'il s'agit d'une imposture, et d'ailleurs d'une imposture maçonnique, il faut le dire, le moment serait peut-être venu pour les citoyens de se constituer en tribunal populaire spontané. Un peu sur l'exemple du tribunal Russell. On pourrait dire, puisque vous n'avez pas voulu nous donner la justice que nous méritons, eh bien nous allons nous constituer un tribunal public, un tribunal qui sera grand ouvert. On pourrait louer une grande salle dans Paris, la Mutualité ou quelque chose comme ça. Et puis, ça serait un contre-procès, parce qu'en somme, là, on a vu dans le procès de mascarade organisé par l'État, on a vu que les hommes de l'État étaient présents, leurs défenseurs étaient présents, mais il n'y avait pas de parti civil. Il n'y a ni parti civil, pas de parti civil, ni plaignant.
C'est la consommation de l'étatisme judiciaire, parce que les hommes de l'État, ils oublient toujours les victimes. ça leur fait, ça, ils s'amusent à faire souffrir les agresseurs, mais ils ne se soucient pas d'abord de compenser la perte subie par les victimes.
Absolument, ça c'est une des caractéristiques de la justice aujourd'hui. On s'occupe de faire payer éventuellement les délinquants, mais jamais de les faire...
Non, pas de les faire payer, de les faire souffrir.
Les
hommes de l'État,
mais jamais de leur faire payer, de leur faire rembourser leurs victimes. Alors donc, moi je crois qu'on pourrait monter un procès comme ça, et on nous dira, mais dans ce procès, les accusés ne seront pas là. Mais c'est pas gênant, puisque dans le procès actuel, les plaignants ne sont pas là. Comme ça, on a eu un procès avec des accusés et pas de plaignants, un procès avec des plaignants et pas d'accusés, et en rapprochant les deux procès, à mon avis, on devrait arriver à quelque chose d'à peu près conforme à l'ordre démocratique dans toute sa splendeur. C'est-à-dire un ordre totalement aberrant, il faut bien le reconnaître. Voilà, donc si vous partagez ces idées, vous pouvez, je le signale, vous entrer en contact avec cette association, qui est une association apolitique, en tant qu'elle n'est pas une association partisane, qui s'appelle Le Choix du Peuple Français, et dont l'adresse est 34 Grande Rue à Bessancourt, 95 550, 34 Grande Rue à Bessancourt, 95 550, et le numéro de téléphone et de fax est le 01 30 40 03 71. Gérard Védelige, vous êtes là?
Oui, oui, bonsoir, Serge.
J'espère que je n'ai pas été trop long, que vous attendiez...
Bon, je vous félicite pour votre brillante analyse là, de l'affaire du sang contaminé, et je salue tous vos auditeurs, ainsi que Francine, je suis très content qu'elle soit avec vous ce soir.
Bonjour, Gérard.
Alors, Gérard, les auditeurs vous connaissent, vous êtes venu plusieurs fois dans cette émission, vous nous avez plusieurs fois exposé... ce qu'étaient les travaux du professeur Beljanski, et vous vous êtes présenté vous-même comme un survivant illégal, puisque vous avez suivi un traitement interdit, qui était le traitement Beljanski. Remarquez, vous avez eu un successeur dans cette infraction, c'est le président de la République passé, François Mitterrand, qui lui aussi avait suivi le traitement Beljanski. Mais là, je vous demande ce soir, c'est quand même le sujet que... c'est un sujet sur lequel vous vous êtes penché.
Moi, je vous remercie tout d'abord d'avoir eu la gentillesse de m'appeler sur l'île d'Oléron, justement pour vous éclairer sur un aspect particulier de cette ténébreuse affaire du sang empoisonné et comment un scandale peut en cacher un autre. Alors, je voudrais tout d'abord vous rappeler que dans son édition du 21 juillet 1994, François, sous la plume de Bernard Moreau et de Dominique Rizet, apportait la preuve que le professeur François Gros, conseiller du ministre Fabius, savait dès le 14 janvier 1985 que le sida pouvait survenir chez n'importe quel accidenté ou opéré recevant une transfusion sanguine. Puisqu'il l'a écrit lui-même dans une lettre adressée au professeur Jacques Demaille, du ministre de la Recherche et de la Technologie, lettre qui a été saisie au cours d'une perquisition menée par la section de recherche de la gendarmerie de Paris dans le courant de l'été 93. Et ça s'est passé au domicile de François Gros. Ce document, d'ailleurs, on peut le préciser, est aujourd'hui la clé de voûte du dossier d'instruction du juge Berthelin Geoffroy du tribunal de Paris, qui est chargé d'instruire une quarantaine de plaintes pour empoisonnement qui ont été déposées par des hémophiles ou des transfusés contaminés par le virus du sida. Alors si François Gros écrit cela en janvier 85, il est clair qu'il a été mis au courant bien avant. Et l'effervescence qu'il y a eu dans les cabinets d'assurance, peut-être que vous en parlerez dans la suite de l'émission en 83 et 84, c'est bien une réalité qui sera difficile de cacher. Alors moi j'espère que les citoyens qui disposent de ces preuves se manifesteront au nom de la vérité sur ce qui est devenu une véritable tragédie universelle. Ça c'est clair. Alors pourquoi, la question qu'on peut poser, pourquoi tous ces journalistes dociles que l'on a missionnés pour traiter ce sujet sur place, pourquoi sont-ils soudainement devenus amnésiques sur cette lettre du 14 janvier 85 qui est une pièce capitale de ce procès surréaliste? Alors en attendant, ce qui est une réalité et que tout le monde peut voir, c'est que sur place là-bas, avenue Kléber, parce que je voulais me déplacer, hein, c'est pas la peine que je vienne, le centre de conférence internationale bénéficie de mesures de sécurité exceptionnelles, que les rues sont barrées partout et que les seuls spectateurs de ce véritable procès de Moscou sont les forces de l'ordre chargées surtout d'empêcher l'approche de tous les curieux, les indésirables comme moi ou d'autres citoyens qui seraient capables d'apporter la lumière à cette justice tout à fait grotesque qui fait fuir les victimes elles-mêmes. Alors aujourd'hui, François Gros, il voudrait, ce monsieur, nous faire pleurer avec ses déclarations faites dans les médias, Le Monde, ailleurs, télévisé et tout. Mais il était pourtant toujours en partie salarié de l'Institut Pasteur au moment des faits. Ça, c'est clair. Ça n'a pas été souligné dans le, avec ce fait qu'il était salarié. Alors, est-ce par machiavélisme qu'il n'a pas souhaité vouloir réparer ses fautes en ne proposant pas aux victimes d'être soignées gratuitement par l'État avec le PB100 de Beljanski, ce futur médicament anti-sida non toxique et qui n'entraîne pas de phénomène de résistance comme les trithérapies et qui était opérationnel depuis avril 86, puisque moi je suis le premier utilisateur de ce produit. Francine en a bénéficié très peu de temps après moi pour pouvoir nous soigner de notre sida déclaré. Alors aujourd'hui, j'ai 14 ans de recul par rapport à un sida déclaré, je suis vivant, et alors que tous les virologues me condamnaient pour la fin 91 exactement. Alors je ne suis pas un cas unique, d'autres malades du sida traités à part les produits belges qui peuvent témoigner, si bien entendu, on veut leur donner la parole. Alors Francine Bocquet est là, je la remercie, elle va vous dire des choses, parce que moi je ne reçois pas le retour de l'émission, je ne peux pas capter ici, c'est bien dommage, je le regrette beaucoup, mais Francine vous racontera comment elle a été contaminée en 84 suite à une opération réalisée en milieu hospitalier et qui a nécessité plusieurs transfusions sanguines, et en plus, la pauvre malheureuse, elle a été contaminée par l'hépatite C. Mais elle vous racontera tout ça. Grâce au produit Beljanski, ce qui est clair, c'est que nous pouvons, aussi bien elle que moi, aujourd'hui nous occuper de nos enfants, de nos petits-enfants, et nous sommes tous les deux en pleine.
D'ailleurs, je vous signale, Gérard, que Francine Bocquet est venue avec sa petite-fille Eugénie, qui est un enchantement.
Alors, oui. Ben oui, elle me disait que ce soir, justement, elle ne pouvait pas venir, parce que, et je suis vraiment très très heureux de savoir. Alors, en parallèle, quelle tristesse, Serge, de voir Madame Sylvie Rouy, sous trithérapie, déambuler avec son fauteuil roulant pour venir simplement réclamer la justice. Sans haine, cette victime exige tout simplement la vérité. Alors le professeur François Gros ne pouvait pas ne pas connaître l'intérêt du PB100 de Beljanski, puisqu'il a travaillé avec lui à l'Institut Pasteur et qu'il connaissait toute la portée des travaux de son confrère sur les ARN. Il faut aussi pas oublier qu'il était le président de la commission scientifique de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida. Mais il est clair que s'il avait donné le PB100 de Beljanski aux victimes du sang contaminé, ça aurait correspondu à la reconnaissance scientifique de Beljanski, et ça, ça n'était pas possible. Moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les intérêts des laboratoires pharmaceutiques ne sont pas les mêmes que ceux des malades, et il est clair que les lobbies pharmaceutiques ont corrompu la majorité de nos hommes politiques et qu'ils ont asservi les médias avec la domination de la publicité. Le PB100 de Beljanski était moins cher que la ZT, il ne devait surtout pas entrer sur le marché en 1986, et tout a été fait pour l'en empêcher. Mais avec du recul, on constate que ces décisions amènent à la conclusion suivante, en somme, que l'on a tué deux fois les victimes innocentes du sang contaminé. Premièrement, en continuant à mettre à leur disposition du sang que l'on savait empoisonné par le virus du sida, donc comme je l'ai dit très officiellement en 1985 avec cette lettre, mais certainement bien avant avec ces problèmes d'assurance. Ensuite, deuxièmement, en ne soignant pas ces malades avec les produits naturels et efficaces mis au point par le chercheur français Mirko Beljanski et que l'on peut aujourd'hui se procurer uniquement aux États-Unis sous le nom de PAOV. Alors, On a même vu la troisième solution, c'est-à-dire qu'on a tué deux fois en venant confisquer les produits Beljanski aux malades jusque sur leur table de nuit. Ce fut mon cas le 9 octobre 1996, ce fut le cas de Francine Bocquet que vous avez parmi vous ce soir. On est venu nous confisquer nos produits. Alors cette molécule extraordinaire, moi, qui m'a sauvé la vie, aurait pu sauver la majorité des victimes qui ne voulaient pas des indemnités de l'État, mais tout simplement la santé, cette fameuse santé qui n'a pas de prix. Alors on s'aperçoit que dans cette dictature du pouvoir médico-scientifique, le scandale du sang contaminé cache en fait le scandale Beljanski, qui est une affaire d'État encore plus impressionnante par le silence surtout qui est fait autour d'un véritable génocide programmé. Les malades du sang contaminé, eux, ils ne représentent qu'une partie de toutes ces victimes. Alors en ce moment, nous assistons, avec la litanie des communiqués de l'agence France Presse, à la fabrication, ni plus ni moins, de héros, avec des responsables coupables. Alors il faut rappeler quand même que l'AFP est dirigé par M. Jean Miot, qui ne cache pas sur Libération du 28 janvier ses appartenances maçonniques, ce que, bien sûr, Serge, je crois que vous saviez. Je vous précise même qu'un adhérent du CIRIS m'a même précisé qu'il faisait partie de la loge d'Onisos. Et que par ailleurs, vous aviez le puissant frère François Gros, très connu dans ce milieu, qui tire actuellement les ficelles de cette grande mascarade de justice, et tous les responsables qui sont des coupables vont s'auto-amnistier dans ce procès de dupe qui sera ni plus ni moins que la victoire du pouvoir de l'argent et de la connivence franc-maçonnique.
Bon, ben, voilà, on peut pas dire que vous mâchez vos mots. Je sais pas si vous mâchez beaucoup de médicaments, mais les mots, vous les mâchez quand même.
Enfin, on est au courant. Écoutez, Serge, François Gros a été pour tout cela, il a été décoré au grade de commandeur de la Légion d'honneur le 12 juillet 91, et il est en plus secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Alors, vous savez, c'est quand même impressionnant.
C'est un ami irréprochable.
Quelqu'un qui a suivi tout ce procès du sang contaminé, obtenir tous les titres qu'il a obtenus, et puis faire le malheureux comme il le fait, c'est inadmissible. Alors voilà, Serge, ce que j'avais à vous dire.
J'avais confiance, il avait la Légion d'honneur.
Voilà ce que j'avais, Serge,
merci,
à vous dire
merci.
Aux éditeurs.
Et comme vous avez été bien sage, je vais vous faire un petit cadeau. Parce que vous avez parlé de cette sympathique secte maçonnique,
oui.
Je vais vous donner les mots de semestre.
Ah.
Vous savez qu'il y a des mots de semestre pour entrer.
Je ne connais pas tout ça.
Alors,
je
vous le dis. Alors, comme vous avez les. Maintenant, vous pourrez rentrer en loge, vous arrivez et vous dites litré, lucidité. Ce sont les mots de semestre encore. Voilà. C'était un petit salut amical de Serge de Beketch à la secte maçonnique.
Écoutez,
je sens qu'ils vont m'aimer.
Vous savez, il faut quand même se dire que s'il nous reste qu'à pleurer avec les dernières victimes qui n'auront pas le droit, il faut le préciser, de faire appel. Hein, on peut toujours se révolter d'une manière ou d'une autre devant tous ces abus de pouvoir qui font honte à la France. Moi, si je peux vous conseiller, vous savez, une pause musicale, je vous suggère Michel Sardou, qui a très bien chanté tout ça, selon que vous serez puissant ou misérable, la justice vous fera innocent ou coupable.
Je crois que Lafontaine l'avait dit avant Sardou, et sans la musique.
Et vous parliez tout à l'heure de démocratie, mais la démocratie, c'est cause toujours. Et en ce moment, vous savez, dans ce procès, eh bien, c'est bien ça, c'est devant ces malades qui sont là, qui sont faibles, mais c'est vraiment cause toujours.
Oui, la dictature, c'est ferme là, et la démocratie, c'est cause toujours. Merci Gérard.
Ah, je vous dis à bientôt à Paris.
À bientôt. Rappelez-nous l'adresse du CIRIS quand
même. Oui, en direct sur Radio Courtoisie, hein, parce que c'est vraiment la seule radio libre. Et ben écoutez, CIRIS, je vous le redis, là, c'est l'association de soutien. Donc, on peut obtenir des informations. Et j'en sers tous les jours contre un carnet de 10 timbres à 3 francs à envoyer à CIRIS, 16 chemin de Saint-James, J-A-M-E-S, 17 550 Dolus d'Oléron. Je répète, CIRIS, C-I-R-I-S, 16 chemin de Saint-James, 17 550 Dolus d'Oléron. Vous mettez un carnet de 10 timbres, votre carte de visite, et vous recevrez un dossier complet d'informations. Ceux qui n'ont pas bien entendu l'adresse, il y a un téléphone fax où l'adresse est répétée en permanence. C'est le 05 46 75 39 75. Je répète, 05 46 75 39 75. Et j'informe aux éditeurs que prochainement, nous allons organiser sur Paris une conférence, et que ceux qui sont déjà intéressés peuvent l'exprimer par écrit, mais qu'on donnera tous les endroits, le lieu, la date, etc., tout ça, sur Radio Courtoisie, bien entendu, qui est la seule radio libre, grande radio libre de ce pays.
Merci Gérard.
Merci.
À bientôt, sans doute, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet.
Bien sûr. Bonne continuation.
Merci. Francine, Gérard a dit l'essentiel, mais je vous remercie d'être venu parce que c'est toujours plus fort de faire un témoignage personnel. Alors, j'aimerais que, si c'est pas trop pénible pour vous, vous nous rappeliez dans quelles circonstances votre vie a basculé.
Bon, j'avoue que passer derrière Gérard cherche pas ses mots, mais moi c'est différent. J'ai été contaminée en décembre 84. J'ai eu 69 flacons.
De sang, non ?
De sang, oui, de dérivé sanguin. Et à la suite de ça, en 84 et en 88...
Il faut bien parler dans le micro, excusez-moi. Voilà, comme si vous mangez une glace à la vanille.
D'accord. 84 en 88, bon, bah, j'avoue que mon état se dégradait. Et j'ai découvert les produits Belzhansky.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert que vous étiez atteinte du sida? D'abord, comment l'avez-vous découvert? On vous a testé à l'hôpital?
Non, j'ai pas voulu aller dans les hôpitaux parce que, on parlait en 84 et 88, on parlait de cette maladie par les transfusions, par. Je me suis documentée. Et il s'avère que, on nous injectait le HIV.
En même temps, quand on vous avait des transfusions, c'est à ce moment-là qu'on vous a contaminé. Oui. Et comment l'avez-vous identifié? Qui l'a identifié?
Un médecin, j'ai fait faire une analyse.
À ce moment-là, est-ce que vous vous êtes retourné contre l'hôpital qui vous avait fait? Parce que vous avez su tout de suite que vous aviez acquis cette maladie.
En 88, par transfusion.
Vous êtes-vous retourné contre les hôpitaux, contre l'hôpital où ça s'était passé?
L'hôpital, oui. Il y a eu tout un...
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelle a été la réaction des autorités? Est-ce que vous avez été indemnisé sans difficulté?
Une partie, parce que vous avez plusieurs échelons. La dernière échelon, on vous la donne si éventuellement vous êtes décédé.
C'est ça, donc on donne à vos éléments, c'est pas mal. Oui.
Si vous êtes dans une petite boîte, là, on vous indemnise.
On vous donne de l'argent.
On vous donne de l'argent.
C'est utile, bien sûr.
Où on va.
Est-ce qu'on a essayé de faire pression sur vous d'une manière ou d'une autre pour que vous ne parliez pas? Non, on vous a jamais demandé de garder le silence sur votre cas.
Il y a eu des recherches de culot qui étaient vraiment assez importantes, assez long, en fin de compte.
Et on vous a dit d'où venait le sang que vous aviez reçu?
Oui, il y a beaucoup de sang de la prison.
Ouais. Alors,
la plupart, oui.
Est-ce que vous, qui êtes, vous étiez...
Mais on n'a pas retrouvé les culots, parce que là... Ouais. Tout a été
utilisé.
Utilisé.
Et vous étiez une jeune femme au foyer à l'époque?
Oui, je travaillais.
Donc vous travailliez à cette époque-là? Dans quelle branche travailliez-vous?
Esthéticienne.
Donc vous n'aviez pas de connaissances particulières dans ce domaine? Vous ne pouviez pas être consciente au moment où on vous a fait ces transfusions risque que ça représentait?
Non, pas du tout. Vous allez dans les hôpitaux, c'est pour... pour vous soigner, Si vous ressortez de l'hôpital plus malade que quand vous êtes ressorti, vous posez quand même des questions. Là, vous prenez votre santé en main.
Parce qu'on publie dans le Libre Journal le témoignage d'une dame qui s'appelle Anne Merlin-Chazelin, qui a été victime d'un accident de la circulation très grave à l'époque, et qui, transportée dans l'ambulance vers l'hôpital, a entendu les deux médecins dire, le médecin qui était là, puis un autre, l'un a dit il faut absolument la transfuser tout de suite, elle perd du sang, la tension fiche le camp, etc. Et l'autre lui a dit non, moi je ne fais pas ça, j'ai pas confiance, je veux pas prendre un risque pareil, c'est trop dangereux de transfuser en ce moment. Et ça, c'était tout à fait au début.
En
c'était,
88.
Je pense que... Non, bien avant. C'était
84
ou 85, j'ai plus la date.
Les médecins savaient très bien.
Mais donc, des médecins et des médecins du SAMU. C'est-à-dire, c'est pas des sommités du monde médical qui étaient informés. Ce ne sont pas des collaborateurs de ministres. Ce sont des médecins de la base. Donc, les médecins de la base savaient. Est-ce que vous avez eu à l'époque. Est-ce que vous avez l'impression à l'époque que les assurances étaient informées? C'est une question qu'on essaye d'élucider en ce moment.
C'est difficile à savoir.
Vous-même, vous avez été... vous avez eu des contacts avec les assurances à cette époque-là? Vous ne vous rappelez pas?
Non, je ne me rappelle pas.
Oui, Éric Arzel.
Oui, il se trouve que j'étais aux États-Unis en reportage en 82-83 et je me souviens avoir participé à des réunions à Washington avec des sortes de directeurs de campagne, des gens qui vont se louer pour faire la campagne électorale. Ils préparaient la campagne présidentielle de Reagan pour 84 et des chiffres extrêmement alarmants circulaient sur le coût du traitement du sida, en particulier le nombre d'infirmières et de médecins qui sont impliqués dans l'assistance et le soin de quelqu'un qui est malade, parce que c'est une maladie considérée comme extrêmement longue dans son évolution et réclamant très vite des soins très lourds et très chers, et des chiffres extrêmement alarmants étaient indiqués dans tous ces dossiers. Donc 82-83 aux États-Unis, on était parfaitement informés à la manière américaine de ce que ça pouvait coûter.
Et il fallait juste chauffer ce sang, en fin de compte, pour éviter...
C'est ça, le problème, c'était qu'il aurait suffi de le chauffer.
Il fallait.
Mais ça, c'est François Guillaume. Une des conséquences de l'étatisme médical, c'est que là, lorsque vous obtenez une indemnité, c'est de l'argent qui est volé aux contribuables. Si on obligeait tous les hôpitaux à s'assurer auprès d'assurances privées, eh bien, ils auraient une évaluation beaucoup plus précise de leurs risques. Mmh. Ce qui n'est pas fait, justement, parce que la sécurité sociale, c'est tout sauf un système d'assurance qui est géré par des gens qui savent ce que c'est qu'une assurance, et parce que, par ailleurs, l'indemnisation des torts causés par l'administration, par tout ce qui dépend de l'État, se fait aux dépens du contribuable, au lieu que les risques soient correctement identifiés par des spécialistes dignes de ce nom.
Ce que je voudrais, Francine Loquet, avant de vous libérer, parce que vous êtes devant le micro à peu près comme... Praline sur la mettait sur un tas de braises.
Un tas de braises, oui, c'est à peu près ça.
Ce que j'aimerais vous demander, c'est de rappeler aux auditeurs et qui vous ont entendu la première fois, et de révéler à ceux qui ne vous ont pas entendu ce qui s'est passé, ce fameux 9 octobre qu'évoquait tout à l'heure Gérard Wedlich. Parce que il faut savoir que j'ai dit en commençant que non content. Pas content de vous avoir raté la première fois, l'État a essayé de vous assassiner
oui,
une deuxième fois.
Deux
je voudrais que vous racontiez brièvement comment ça s'est passé.
Bah, le 9 octobre, il y a eu une perquisition à 6 heures du matin. Ils sont venus à la maison avec 3 gendarmes, une femme et puis deux hommes. Ils ont perquisitionné, ils ont fouillé, ils ont pris des dossiers, ils ont pris mes gélules. Tout, enfin, ce qui était dans la cuisine, en fait, ils ont fouillé un peu partout, et ils ont tout embarqué, ils ont tout mis sous scellé. Et là, j'avais une maison en Vendée, et ils m'ont fait une perquisition aussi en Vendée dans la même journée. Alors, ils m'ont emmené.
Alors, que ce soit bien clair, ils sont arrivés donc le matin. Très tôt chez
à
vous.
À 6 heures, oui.
À 6 heures du matin. Ils ont enfoncé la porte, je crois.
Non.
Ils sont entrés. Enfin, vous avez été terrorisé par leur...
À 6 heures du matin, vous êtes un petit peu abasourdi. Hein. J'avoue que ça m'a complètement... Déjà, avoir été contaminée par le sang, j'ai eu un choc psychologique. Alors, dans ces cas-là, je me suis un petit peu renfermée sur moi-même. J'avais du mal à exprimer... cette souffrance en fin de compte. Et là, la deuxième fois de cette perquisition, je crois que là, ça a été vraiment la chose la plus difficile à
Donc
vivre.
Donc vous avez été malmené.
Non, ça a été correct.
Ouais. On vous a forcé à monter dans une voiture.
Oui, on est parti en Vendée.
Alors que vous étiez malade, que vous aviez été rendu malade
par
l'incompétence criminelle de l'État, on vous a emmené en Normandie où on a de nouveau perquisitionné.
Voilà.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Perquisition à la maison, j'avais un petit peu de produit là-bas, ils m'ont tout mis sous scellé, et nous sommes repartis à Choisy-le-Roi.
Et là?
Et là, j'ai dormi en prison, et le lendemain matin, ils m'ont questionné, interrogé toute la journée.
Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de raconter, parce qu'on est en train de raconter Francine Boquet. Des gendarmes, donc des hommes de l'État, sont venus arrêter une malade chez elle parce qu'elle prenait un médicament qui n'avait pas d'autorisation.
C'est ça, oui, j'avais choisi ma thérapie.
Voilà.
C'est ça qui.
Parce qu'elle refusait de mourir de façon officielle.
Voilà, oui, j'avais été contaminée légalement. Moi, je ne veux pas mourir légalement, je préfère vivre légalement et.
Oui, vous très bien, il vaut mieux vivre illégalement que mourir à Monsieur Fabius.
Oui, je suis désolée, hein, ouais. Moi, ça m'a permis de connaître ma petite fille, autrement, ouais. J'avoue que depuis 1984, je serais en fauteuil roulant ou un légume.
Ouais. C'est terrifiant. Et donc, ils vous ont mis en prison, je crois qu'ils ont fait venir votre mari aussi.
Alors, mon mari est venu pour me rechercher, et comme il travaillait avec monsieur et madame Beljanski, ils m'ont dit, c'est très bien, vous lui donnez les clés de la voiture, elle repart, nous, on vous met un contrôle judiciaire. Vous restez là, on vous emmène à Créteil.
Et donc, c'est lui à ce moment-là qui est...
Alors là, il a repris...
en garde à vue.
En garde à vue, sous contrôle. Ah oui, en garde à vue à Créteil.
Voilà. Est-ce qu'il faut en dire plus, vous croyez? Comment ça s'est passé après? Vous avez été inculpé?
Il a eu 200 000 francs d'amende à payer.
Voilà.
Et le procès est toujours en cours.
Alors, je signale, ça c'est en dehors du débat, que M. Bocquet, à la suite de ça, a perdu naturellement tout ce qui faisait son patrimoine. Et à l'heure actuelle, il est en train d'envisager une restructuration complète de son existence, c'est-à-dire qu'il va être obligé de devenir, de travailler à son compte. Je ne sais pas ce que vous souhaitez dire, ce qu'il va faire. Il envisage de prendre un taxi, ce qui n'a rien d'infamant, bien entendu.
Ça nous a vraiment bouleversé notre vie. Hein. Déjà, la maladie, alors on dit toujours aux malades, n'ayez pas de stress, reposez-vous. Je crois que là...
Voilà, voilà ce qui se passe en France aujourd'hui, en ce moment même. Quand on compare le sort qui a été fait à M. et Mme Bocquet pour le crime d'avoir détenu chez eux des médicaments qui n'avaient pas d'autorisation de mise sur le marché et qu'ils ne vendaient à personne, qu'ils s'appliquaient, enfin que Mme Bocquet utilisait pour elle-même. Pour ce crime-là, on les a arrêtés, on les a mis en prison, on les a ruinés, parce que c'est ce qui s'est passé. Et on leur a détruit leur existence. Et à côté de ça, les trois hommes de l'État, dont une femme, qui sont à l'origine de ce crime, se pavanent devant des tribunaux, qui sont des tribunaux d'opérette, des tribunaux comiques, avec une mascarade de justice, avec des juges qui sont leurs pères, qui sont leurs complices, qui sont leurs frères d'ailleurs également, il faut le dire. Et tout ça est accepté par les citoyens français avec une bénévolence qui véritablement force l'admiration.
Est-ce qu'on peut vous demander, madame, d'ailleurs, si lorsque la police est venue chez vous, comment elle s'est comportée? Est-ce que il vous a semblé que les policiers qui sont venus étaient des auxiliaires du gouvernement ou est-ce qu'au contraire, il vous a semblé qu'il y avait quand même chez eux
une forme... Les policiers étaient des gendarmes.
Les gendarmes, oui, pardon. Il y avait une forme de... d'hostilité vis-à-vis de l'entreprise qui était la leur pour venir vous chercher.
Non, enfin tout ça dépendait de mon comportement, parce que quand on est descendu en plaisantant, je leur dis vous allez quand même pas me mettre les menottes. Ils m'ont dit on peut vous mettre les menottes, tout ça ça dépendra de notre
appréciation.
Voilà, c'est ça.
Alors, mais à la limite, c'est plutôt pire si ce genre de personne arrive avec une certaine gentillesse pour faciliter sa mission. C'est pour la tranquillité de leur travail. C'est pas du tout par sens de la justice. Enfin, ce que je trouve complètement extraordinaire, c'est la servilité des fonctionnaires dans ce pays. Leur désir d'aller au devant de toutes les instructions.
Eric, ça n'est pas d'aujourd'hui. Vous le savez bien, les fonctionnaires, pas tous d'ailleurs, mais enfin la majorité des fonctionnaires a toujours été d'une servilité totale. D'ailleurs, je lisais l'autre jour dans Galtier-Boissière, je l'ai publié dans le Libre Journal, la lettre que les ouvriers du Livre communiste ont publiée en 1946, pour expliquer quand même ce phénomène extraordinaire. Tous les ouvriers du Livre étaient communistes, sans exception, puisqu'on ne pouvait pas travailler dans le Livre si on n'était pas communiste. Et tous ces ouvriers du Livre communistes ont publié pendant toute l'occupation tous les journaux fascistes, nazis, antisémites, collabos, sans une demi-journée de grève, et sans avoir jamais caviardé un seul mot dans les journaux. Alors, à la libération...
Et sans avoir gâché l'encre ou le
sans
papier...
Sans avoir gâché l'encre, ni le papier, aucun sabotage, aucune grève, tous, ils ont scrupuleusement exécuté les ordres. Et à la libération, on leur a fait remarquer peut-être que quand même, c'était pas très très élégant d'avoir fait ça, et ils ont fait une lettre dans laquelle ils ont répondu d'une façon extraordinairement arrogante à ce reproche, et non contents d'expliquer qu'après tout, c'était des ouvriers, qu'il fallait bien qu'ils gagnent leur vie, et que par conséquent, ils avaient fait comme tout le monde, comme les métallos avaient continué à fabriquer des tanks pour les nazis, comme les cheminots avaient continué à conduire des trains pour emmener les gens dans les camps de concentration, comme les maçons avaient travaillé sur le mur de l'Atlantique, et bien eux, ils avaient imprimé des journaux nazis, antisémites, fascistes et collaborationnistes, sans en concevoir le moindre remords ou le moindre état d'âme, et ils terminaient leur lettre en rendant hommage à deux camarades syndiqués de la CGT, qui pendant toute l'occupation avaient tenu les négociations avec l'occupant allemand et le représentant de l'État français de Vichy et avaient obtenu le maintien des droits acquis. Voilà. Alors, quand on vit dans un pays comme ça, où il se passe ça, avec une partie de la population qui est constituée de cette racaille immonde, il ne faut pas s'étonner qu'il se passe après ce qui s'est passé là, ce qui est arrivé à Mme Francine Bocquet,
et
ce qui se passe aujourd'hui.
Parce que là, on touche le paroxysme. Vraiment, on touche le paroxysme.
Hein. Merci, Francine Bocquet. On va lire les messages avant que vous ne partissiez.
Oui. Alors, il y a ceux sur le sang contaminé. Comme tout est politique, on peut faire une affaire politique du sang contaminé, mais on fait fausse route. Le grand problème, c'est la responsabilité de la féodalité médicale et pharmaceutiques, toutes puissantes.
Oui, mais enfin, ça, c'est un peu... c'est vrai ce que dit cette auditeur, Chris. C'est vrai, mais ça rend pas... c'est justement le problème. Le problème, c'est que les politiques qui devraient être le défenseur de l'intérêt commun face à l'intérêt privé se sont mis à la botte de l'intérêt privé, c'est-à-dire de la mafia pharmaceutique.
Non, mais c'est que l'étatisation institue l'irresponsabilité. Un intérêt commercial qui sait que s'il empoisonne ses clients, eh bien, il devra payer des dommages et intérêts formidables. Son intérêt commercial, c'est de ne pas empoisonner ses clients. C'est uniquement parce que l'étatisme exonère les décideurs des conséquences de leur choix que l'irresponsabilité se développe.
Très bien vu.
Je vais vous donner l'adresse de Ceris.
On l'a donné, mais on va la redonner après.
J'ai toute une série de questions sur le... Alors, le procès du sang contaminé est la preuve évidente que les dirigeants cherchent à faire avaler n'importe quoi aux Français.
Bah ça, je pense qu'on n'avait pas besoin de cette preuve-là. Elle est née depuis longtemps, la preuve.
Une auditrice sur RTL, dans Les auditeurs ont la parole, ils ont dit que la prise de sang dans les prisons a duré jusqu'en 1990. Qu'en est-il?
J'ai pas d'informations là-dessus.
Le représentant de Pasteur...
Je me souviens parfaitement quand Le Pen avait dit c'est scandaleux, puisque tout le monde sait que dans les prisons, il y a des toxicomanes, il y a des homosexuels, et c'est des homosexuels prostitués, c'est-à-dire des gens qui ont quand même beaucoup de chance d'avoir cette maladie. Et il avait dit, il faut arrêter ça, c'est scandaleux. Eh bien, ça avait provoqué, je me souviens comment ça s'appelait, madame...
Madame Ezrati, j'ai dit...
Non, c'est pas madame Ezrati.
Barzac,
qui n'était pas socialiste, enfin, pas socialiste du PS.
Voilà, pas socialiste du RP. Hein.
Oui.
Le représentant de Pasteur ayant déclaré que son test était prêt au mois d'avril, le fait de ne pas l'avoir mis en service montre le libéralisme de M. Fabius qui a attendu que le test américain puisse entrer en concurrence.
Solliciter les chaises.
Oui.
C'est une légère inversion des mécanismes.
Alors, une auditrice, l'interdiction semble-t-il de prononcer le nom de Badinter s'explique-t-elle par la haute fonction qu'il a exercée comme président du Conseil constitutionnel. Il reste pourtant l'un des principaux responsables, ainsi que Madame Myriam Ezrati, directrice de l'administration pénitentiaire.
À ce propos, il faut savoir, c'est un détail qui a son importance, il n'est pas capital, mais il a son importance. Madame Ezrati étant, elle s'appelle Ezrati, comme Claude Estier s'appelait Claude Ezrati. C'est la sœur de Claude Ezrati, qui était un des dirigeants du Parti Socialiste, et on voit bien le système de connivence qui se développe, le système de fraternité, de sororité et de petites relations intrafamiliales.
Alors, l'idéologie est aussi responsable de la contamination du sang, car selon Mme Ezrati, c'était en prélevant du sang dans les prisons qu'on pouvait réinsérer les prisonniers.
Non, ça je crois que Mme Ezrati, il faut être honnête, a dit exactement le contraire. J'ai lu une interview d'elle dans laquelle elle dit « Je n'ai jamais... » Alors, en tout cas, elle nie avoir dit ça. Elle dit « Je n'ai jamais prétendu que c'était la réinsertion, c'est une imbécilité », ce qui est vrai d'ailleurs. La réinsertion ne passe pas par des prises de sang, la réinsertion elle passe par une formation donnée aux détenus, etc.
Moi, c'était la prison de Poissy.
C'est ça.
Ils ont tout fermé, je crois.
J'ai un médicament... Ou alors là, c'est quelqu'un qui nous fait des calculs savants. J'ai un médicament prescrit pour la bronchite qui coûte 100 francs pour 250 microgrammes par dose. Il y a 80 doses, ce qui fait 1,5 milliard de centimes au kilo. Plus cher que le caviar, il s'agit du bécotide des laboratoires Glaxo.
Oui, mais ça justement, je vois qu'il y avait d'autres questions sur le prix des produits Belzhansky.
Alors, parce que tous les Belzhansky, ouais. Après, je vous fais le sang contaminé d'abord. Mmh. Alors, au cours du procès du sang contaminé, pouvez-vous m'expliquer ce que M. Barr faisait là? Si tous les responsables sont innocents, pourquoi avoir condamné le docteur Garetta? Et enfin, soyez gentil de mentionner l'article d'Anne-Marie Casteret qui remet... Bon, qui fait un bon article dans l'Express, au sujet du sang contaminé, avec un courage qui sauve l'honneur des autres journalistes, eux, voteraient dans la
vie. Ça sauve au moins l'honneur de Mme Casteret, elle n'est pas détentrice de l'honneur de toute la presse française.
Et puis alors, sur les produits Belzhansky, on vous dit, avez-vous porté plainte devant la Cour de justice européenne?
Non.
Ça va se faire, là. Ça va se faire, oui.
Justement, je vous pose une question sur... Il paraît que les produits Belgianski sont chers. Quel est donc ce prix?
Je crois qu'on... Je sais pas, vous voulez répondre, Francine Bocquet?
C'est-à-dire, moi, c'est 1500 francs par mois. Mais enfin, pour la vie...
Le coût du traitement Belgianski est de 1500 francs par mois. Alors,
dépend,
je ne sais pas ce que coûte la...
Hein? Ça dépend...
Non, mais en l'occurrence, Madame Francine Bocquet, elle est atteinte d'un sida et d'une hépatite C. Je crois qu'à mon avis, enfin, j'ai l'impression qu'on peut difficilement faire mieux. On doit pouvoir trouver 2-3 trucs supplémentaires à se coller, mais là, quand on a ça, déjà, on peut penser qu'on fait, on utilise des médicaments à haute dose. Eh bien, le prix est de 1500 francs. Alors, je veux bien croire que c'est cher parce que par
rapport à ça. Quand vous achetez des cigarettes.
Voilà, c'est des cigarettes, à 20 francs le paquet, ça représente, si je ne m'abuse, 600 francs par mois, donc la moitié d'un traitement. J'ajouterais une chose, c'est que je ne sais pas ce que coûte la trithérapie, mais je veux bien parier ma chemise que ça coûte beaucoup plus que 1500 francs par mois.
Alors si, justement, quelqu'un qui critique une auditrice, elle dit j'ai pris ces médicaments venant des États-Unis et 6 mois après je me suis écroulée, ils sont inefficaces, mais dit-elle j'avais abandonné les autres traitements. Moi, j'ai toujours entendu M. Vedlige dire qu'il fallait continuer son traitement et que c'était un complément alimentaire.
J'ai pas cessé les produits des États-Unis
et
je me porte très bien.
On vous demande, le produit dont vous parlez est-il aussi efficace contre le cancer que contre le sida?
Je crois que oui, parce que je vous...
Écoutez, on ne peut pas faire une consultation sur les produits Belgianski. Simplement, on indique l'adresse à laquelle
on nous pose aussi une question sur le Siris. Organisera-t-il cette année un colloque comme il l'a fait l'année dernière en Angleterre?
Je ne sais pas.
Il y a un colloque.
Qui est prévu?
Qui est prévu.
Et alors, pouvez-vous nous donner votre avis sur le livre L'affaire Belgianski de Jacques Lebeau qui a troublé beaucoup d'auditeurs?
Non, je ne tiens pas à parler de ce livre parce que je le désapprouve sur de très nombreux points et notamment sur sa genèse. Voilà. Mais il n'a pas été exclu de Radio Courtoisie puisque, si je ne me trompe, je ne me trompe pas d'ailleurs, Anne Brassière fut son auteur.
Oui, et alors où peut-on écrire au Siris?
Eh bien voilà, 16 chemin Saint-James, 17 550 Dolus de Léron. Voilà.
Et puis, c'est tout pour le Siris.
Je vais peut-être répéter l'adresse parce que
c'est un petit peu
Siris, rapide. 16 rue Saint-James.
16 chemin
Saint-James. 16 chemin Saint-James. 17 550 Dolus de Léron.
Voilà. Et comment peut-on obtenir les renseignements
Un carnet de table.
Voilà. C'est tout pour le moment pour moi. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Serge de Bekech.
Alors, on va... Oui, c'est vrai, je ne me suis pas présenté. On va écouter maintenant quelque chose et je vous mets au défi de trouver ce que c'est, de trouver d'où ça... Ce que c'est, ça, c'est pas possible, mais d'où ça vient. Écoutez cette musique. Si vous savez d'où ça vient, passez-nous un petit coup de fil, ça sera amusant.
Yeah.
Dominique Tassot, vous qui êtes un polyglotte multirécidiviste, est-ce que vous avez la moindre idée de l'origine de cette...
Non, là, je donne ma langue au chat, j'ai essayé de décrypter, j'ai pas pu.
Est-ce que quelqu'un autour de cette table a une idée? Philibert, qui est notre musicologue.
Peut-être de la République de Macédoine.
Oh, il est infernal. Il est infernal. Ça, c'est incroyable, alors. Là, je suis carrément snobé.
Ben, oui.
Parce que personne ne peut trouver ça. Bon, ben, notre jeu est fini, mes enfants, je suis désolé. Faut vous plaindre auprès de Philibert. Philibert, vous avez gagné un numéro du Libre Journal. À passer prendre 4 places France Libre.
Fantastique.
Eric Arzel, vous restez avec nous un moment. On va... vous n'êtes pas aux pièces.
Pas du tout.
Je suis content d'avoir Dominique Tassot. Je suis content de vous avoir aussi, Eric. Mais Dominique Tassot est un homme rare dans tous les sens du terme. Et vous voulez dire quelque chose, M. Guillaume?
Oui, oui. J'ai pas voulu intervenir pendant que Madame parlait parce que son expérience est proprement hallucinante et vraiment elle touche au paroxysme du système actuel dans toute sa décomposition. Mais je ne peux pas non plus suivre complètement François Guillaume lorsqu'il met en cause l'État à tout prix. Je crois que l'État a sa part de responsabilité, mais le système marchand libéral aussi. Et les deux vont de pair. Et quand tu as dénoncé tout à l'heure, Serge, le gros fric et le capitalisme comme étant la source aussi des problèmes que nous connaissons actuellement, notamment à travers la mafia pharmaceutique, eh bien nous pouvons voir, je crois, une connivence entre les hommes de l'État qui servent le marché et le marché qui sert les hommes de l'État.
Moi, je sais pas, j'ai lu quelque chose dans un type qui s'appelle Rio La Rochelle, qui écrit quelque chose du genre le communisme et le capitalisme, c'est les deux faces de la même pièce.
Oui.
Voilà.
Je crois que même Rio La Rochelle va jusqu'à dire que le capitalisme est la phase ultime du communisme, parce que comme le communisme est égalitaire et veut créer un homme standard, le capitalisme aujourd'hui uniformisant sur la planète tous les modes de vie différenciés et standardisant tous les hommes, on peut considérer que le capitalisme et le communisme sont les deux faces d'une même pièce matérialiste.
Bon, vous avez bien fait d'en profiter parce que comme Guillaume a passé son micro à M. Privat, on va organiser un jour un débat, ça va essayer de faire un débat, ça va terminer en pugilat sur ces questions.
Je signale d'ailleurs que dans 3 semaines, à l'âge d'homme, on va faire un tout petit peu de publicité, je publie un ouvrage collectif qui s'intitule « Aux sources de l'erreur libérale pour sortir de l'étatisme et du libéralisme », qui est un ouvrage collectif qui rassemble différentes sensibilités.
Et ben voilà, vous viendrez en parler avec François Guillaume, puis je vous laisserai, j'irai.
Mais ça fait une très bonne transition, parce que justement, le capitalisme et le communisme ont besoin l'un comme l'autre de la caution des scientifiques.
Bien sûr.
Et donc, malgré les apparences matérialistes, en réalité, le spirituel a toujours son rôle dans le conditionnement des esprits, et ça Auguste Comte avait très bien vu, parce qu'il a dit, mais dans la société positive, c'est-à-dire la société scientifique, la nôtre, ce sont les scientifiques qui seront les prêtres. Et aussi bien, alors dans l'affaire du sang contaminé, parce que vous dites, ça met en cause le système marchand, ça met en cause les politiques, moi je dis, ça met en cause les scientifiques,
oui,
parce que, en fin de compte, c'est toujours des hommes de science qui cautionnent.
Ça met en cause la sacralisation, vous avez raison, la sacralisation d'une certaine science. C'est-à-dire qu'on a, c'est le mandarinat porté à son paroxysme.
C'est une question d'autorité, c'est-à-dire que tout repose en fin de compte, en dernier ressort, sur une autorité intellectuelle. Et les gens qui vont dédouaner, en fin de compte, c'est toujours les scientifiques, aujourd'hui.
Mais d'ailleurs,
parce que l'Église n'a plus de rôle spirituel, donc il faut trouver quelque part des gens qui veulent bien, communautairement, exercer une autorité spirituelle, et aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui
le
font.
Le problème, c'est que l'Église, on l'a vu à travers l'affaire du Saint-Suaire, par exemple, l'Église s'est réfugiée, elle aussi, derrière les scientifiques. Elle dit, non, moi, on se range à l'avis des scientifiques, on va pas intervenir sur un débat.
Elle s'est dépossédée de son autorité, voilà. Et comme la nature a horreur du vide, bon, ce sont les scientifiques qui exercent cette autorité. Et justement, de Marx, qui est quand même un inspirateur important des politiques contemporaines, a cherché l'autorité de Darwin. Il a demandé une préface de Darwin. Mais Darwin, qui était officiellement agnostique, qui était un homme très très prudent, n'a pas voulu préfacer le livre de Marx. Mais Marx avait dit, c'est Engels plutôt qui l'a dit explicitement, enfin on trouverait la même chose chez Marx, la lutte des classes trouve son fondement scientifique dans la théorie de la sélection naturelle et de la lutte des classes de Darwin, parce que c'est la projection dans la sociologie de la lutte pour la vie que Darwin prétend trouver dans la nature.
On peut retrouver ça d'ailleurs aussi dans le darwinisme social, chez Spencer notamment, où c'est la lutte pour la vie, mais à l'intérieur de la vie économique. C'est-à-dire la mutation-sélection indexée sur la proximité spéculative ou la proximité du rendement, des bénéfices, du profit que les uns et les autres peuvent faire. Et moi, je lis souvent vos travaux qui m'intéressent énormément, et c'est la modernité technoscientifique, la modernité darwinienne que vous remettez en cause, aussi bien sous sa forme libérale que sous sa forme marxiste.
Je vais peut-être reprendre en main le débat, parce que c'est pas exactement ce que j'avais prévu. prévu d'évoquer avec Dominique Tersault, mais enfin, je veux bien, si Guyot-Jeanin veut aussi me piquer mon émission.
Non, absolument pas.
Oui, Dominique Tersault, vous êtes présidente du CEP, qui est le Centre d'études et de prospectives sur la science. Alors, on est en plein dans le sujet, d'ailleurs, j'ai voulu récupérer la parole plutôt que le contrôle du débat. Et vous publiez une revue qui s'appelle le CEP aussi, la revue du Centre d'études et de prospectives sur la science. Vous organisez des débats, des rencontres, des colloques.
C'est ça, et précisément, on organise une journée le samedi 6 mars. Et c'est un petit peu donc
ce qu'il y a. Le 6 mars, c'est
à Paris.
À Paris. Et le sujet.
Alors le sujet, je vais laisser Guy Prival,
qui est
l'organisateur de cette journée, de la présenter.
Eh bien, elle sera sur deux sujets. Le matin, l'Allemagne. L'après-midi, l'école. Pour l'Allemagne.
Je sais que je pourrais déjà faire la grasse matinée.
Ah, qui sait ?
Les auditeurs qui ont entendu souvent ici même le général Gallois savent avec quelle maestria il présente la géopolitique, et notamment celle de l'Allemagne. Ce sera exactement le même sujet par un de ses collègues qui est général du cadre de réserve, le général Dumoulin. Et donc, il sera question, avec des documents, quelques projections...
Alors, je dois préciser que le général Dumoulin a été déporté en Allemagne et qu'il aime énormément la culture allemande et la poésie allemande. Donc, c'est tout l'intérêt, si vous voulez. Parce qu'on ne comprend bien quelque chose que quand on a un minimum de sympathie envers cette chose. Donc, on peut évidemment décrire l'Allemagne de manière purement géopolitique, intellectuelle, etc. Mais à ce moment-là, on n'a pas une approche suffisamment complète de la réalité de ce qu'est l'Allemagne et de la réalité de ce que l'Allemagne peut apporter en Europe. Et je pense qu'avec la double casquette du général Dumoulin, qui est à la fois imprégné de culture allemande et évidemment militaire de carrière, ayant fait des études techniques de l'Allemagne en géopolitique, on aura là un exposé, je pense, tout à fait intéressant.
Ensuite, nous prendrons de la hauteur, mais nous redescendrons aussi à la vie quotidienne. Nous considérerons Hildegarde. Hildegarde, c'était la sainte qui était honorée l'année dernière en raison de l'anniversaire de sa naissance. Et cette sainte, dont les auditeurs qui s'y intéressent ont pu voir une rétrospective dans la belle exposition à l'abbaye de Maubuisson, dans l'Oise, l'année dernière. Ceux qui ont été plus chanceux et qui sont allés en Allemagne, à Mayence, sur les lieux même de sa vie monastique, on peut également voir une exposition extraordinaire. Cette sainte, donc, avait couvert, suite à ses révélations divines, un très grand nombre de sujets scientifiques, puisque c'est le côté scientifique qui nous intéresse, scientifiques, musicaux aussi, mais médicaux, et elle avait eu des révélations sur la biologie, la façon dont les hommes se reproduisaient, devaient vivre, devaient s'alimenter. Elle avait étudié les plantes, les animaux et les façons de se soigner avec des plantes et avec des pierres. Donc toute une médecine en avait été déduite. Elle avait décrit de 1000 à 2000 préparations, quelque chose de très important, dans des écrits qui ne sont pas tous traduits. Certains étaient en latin, d'autres en vieil allemand, d'autres même dans sa langue un peu secrète. Cependant, des parts importantes ont été récupérées par des médecins allemands et autrichiens qui s'y sont plongés depuis une trentaine d'années et qui ont fondé une médecine hildegardienne d'aujourd'hui, en quelque sorte, pour remettre à jour ce qui était utilisable, réalisable avec les procédés, les produits contemporains. Il y a même un médecin qui a une clinique en Allemagne. Et alors en France, me direz-vous, eh bien, un médecin français s'est intéressé aussi à ça. Il a cherché à suivre ses voies et il a fondé la Société de médecine Hildegardienne de France. Et c'est lui-même qui viendra nous parler de ses travaux, de ses soins, de la façon dont se présente cette approche aujourd'hui, qui, je crois, intéresse beaucoup de gens.
Cet après-midi, alors, je vois qu'il y a Adrien Loubier, qui est l'homme de Sous la bannière.
Qui est bien connu pour ses ouvrages et qui nous parlera de l'école de la République. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il détaillera, qu'il exposera et commentera les documents fondateurs de ce qui est devenu l'école laïque à l'issue de la part de la Troisième République et qui aboutit à ce que nous avons maintenant pour éduquer nos enfants. Et de cette rétrospective, nous passerons à quelque chose qui est tout à fait actuel et en même temps, nous passerons du niveau français au niveau mondial en regardant l'influence des institutions internationales sur la révolution pédagogique.
Oui, moi j'aurais plutôt intitulé ça l'action mondialiste dans l'abrutissement des masses.
C'est tout à fait équivalent et vous avez avec votre langage bien apprécié de nous tous dit ce qu'il sera probablement débattu.
C'est Pascal et Bernardin qui fait ça,
c'est lui-même
de Machiavel pédagogue et de,
que dont nous aurons la chance écologique d'avoir la collaboration. Il terminera cette journée vers 16h. Alors
ça se passe où?
Je vous précise tout de suite l'endroit, c'est rue de Sèvres et au 78A. Notez bien le numéro 78A, c'est entre les métros du Roc et Vanneau. Ça commence à 9h30. Ça finit à 17h30 par un débat de clôture auquel participeront donc les conférenciers qui vendront également leur publication. Et il y a possibilité d'avoir déjeuner sur place à une cafétéria, mais la condition impérative pour bénéficier de cette petite facilité est de téléphoner pour réserver ce déjeuner en disant combien de personnes s'engagent à payer ce repas au prix de 70 francs. Je vais donc tout aussitôt donner à quel téléphone on peut le dire. C'est le 01 60 81 27 24. C'est un téléphone et un fax tout aussi bien.
Toutes ces précisions, je vais vous redemander la feuille, monsieur Prival, toutes ces précisions seront sur le Minitel 3615 Libre Journal. À partir de demain ou après-demain.
Vous pouvez aussi pouvez poser vos questions et même pour éventuellement pour la semaine prochaine.
Dominique Tasso, la revue que vous publiez, la revue du Centre d'études et prospectives de la science, le numéro 6 vient de sortir, est une revue de poche. Moi, que je trouve absolument passionnante parce qu'elle est extraordinairement enrichissante, elle est d'une diversité tout à fait incroyable dans les sujets traités. Il y a souvent des choses très amusantes dedans. Par exemple, il y a un article du docteur Jean-Maurice Clerc qui, lu dans le bon sens, est assez rigolo. Ça s'appelle « Existe-t-il une possibilité de passer de la marche quadripédique à la marche bipédique ?» Et c'est pas du tout ennuyeux. Il y a un article de Joseph Dietrich, « La finalité en biologie ». Un article sur Saint-Herménégilde de Jean de Pamplona, un article d'histoire. Il y a également un article tout à fait intéressant sur l'analyse génétique de l'homme de Néandertal ou la cure de Jouvence, où on voit comment le système n'hésite pas à se livrer à des petites manipulations, à des petits trucs à jouillard, si j'ose dire, pour continuer d'accréditer ses fables.
Ah, si vous voulez, quand on est dans le faux, ça devient, au bout d'un certain temps, ça devient très très compliqué. Donc plus on ment, et plus il faut en rajouter.
Il y a un papier très drôle d'Yves Germain qui s'appelle « Sur les eaux » qui propose les 10 commandements de la démocratie laïque.
Oui, effectivement.
Ça, je crois qu'on peut les lire. « La majorité, tu suivras dans ses lois, lois variablement. Adieu, jamais ne pensera pour bien vivre laïquement. Le dimanche, tu serviras tes idoles premièrement. Tes pères et mères, tu placeras à l'asile oublieusement. Tes homicides, tu feras en suivant la loi seulement. » Et luxurieux tu deviendras, évitant tout refoulement. Le bien d'autrui, tu retiendras raison d'État, tout simplement. Ça devrait plaire ça à François Guillaumin. Faux témoignage, tu diras pour ton parti exclusivement. Œuvre de chair, tu essaieras, comme l'outil, soigneusement. Bien d'autrui ne convoitera, tous égaux, miséreusement. Il y a également un papier passionnant d'Alain Dessin, Regard public sur l'alimentation, et qui fait apparaître que probablement, la cachéroute est une solution radicale contre la maladie de la vache folle.
Marquis, vous savez, il y a très longtemps qu'aux États-Unis, beaucoup de gens s'alimentent dans les rayons cachères, les supermarchés, justement parce qu'ils se méfient de la grande distribution.
Il y a un papier formidable, La Genèse et les méthodes littéraires anciennes, à partir d'un bouquin qui était une analyse d'un livre de Weizmann, je crois.
Weizmann.
Qui expose, alors qui apporte des arguments implacables aux tenants de l'inéance biblique, dont vous êtes.
Voilà, oui, c'est ça. C'est un très très bon. C'est un argument qui ne date pas d'aujourd'hui, voilà. qui est très 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 puissant pour démontrer l'historicité de la Genèse.
Une lettre ouverte à Claude Allègre, qui est pas mal aussi. Un papier délicieux qui s'appelle « Regard sur la création, un problème de carburant quasiment insoluble ». Alors ça, c'est le genre de papier qu'on adore, parce que c'est un papier de Werner Gitt, qui explique à partir du cas du pluvier doré. Éric Carzel, ça devrait vous intéresser.
Le pluvier doré est un oiseau chasseur.
Micro.
Pardon. Le pluvier doré est un oiseau chasseur.
Eh bien, écoutez, je pense qu'un chasseur catholique ne peut plus abattre un pluvier doré après avoir lu cet article, car le pluvier doré est la démonstration vivante, une des démonstrations vivantes les plus lumineuses, premièrement de l'existence de Dieu et deuxièmement de l'existence d'un plan divin. Il faut lire ce papier.
Sa chasse est fermée depuis le 20 février.
Bon, bah, c'est déjà, alors, je m'en félicite. Voilà. Et puis alors, il y a un article, le premier article de ce numéro, qui est intitulé « Ekel démasqué ». Alors, Dominique Tasso, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Ekel et pourquoi vous avez jugé utile, vous-même, puisque vous êtes l'auteur de cet article, de démasquer Ekel ?
Oui, alors Ekel n'est pas très très connu en France, bien qu'il ait été traduit dès la fin du siècle dernier par la librairie rationaliste, et il a eu, enfin, son œuvre a eu une diffusion très très importante à la fin du siècle dernier. C'est le disciple allemand de Haeckel, c'est de Darwin. C'est celui qui a fait connaître Darwin en Allemagne.
C'est Darwin, et en plus il est allemand.
Et en plus il est allemand, en plus il était biologiste. Il a d'ailleurs fait des travaux très intéressants sur les protozoaires. Et c'est quelqu'un d'assez réfléchi, de très intelligent, qui a d'ailleurs compris que l'islam était la religion de l'avenir. Et il explique pourquoi, parce qu'il dit, mais finalement, dans la société scientifique, il n'y a plus de place, évidemment, pour les religions révélées, dogmatiques, etc. Alors, il y a la vraie religion, mais qui est forcément réservée aux savants, ceux qui peuvent comprendre les équations. Donc, c'est comme Einstein, si vous voulez. C'est la religion cosmique qui est réservée aux savants, à l'élite. Il faut quand même une religion pour le peuple. Et il faut une religion dans laquelle il n'y a aucun anthropomorphisme. Alors, il dit, finalement, il y en a une, c'est l'islam. Parce que là, on a à la fois, on admet le déterminisme qui est propre à la religion cosmique scientifique, mais on a des règles simples que tout le monde peut comprendre, qui ne demandent que le minimum. Et à ce moment, et donc lui voit très bien l'avenir avec une élite ayant la religion cosmique et puis l'islam pour le peuple. Alors ça, c'est quand même intéressant parce qu'il écrivait ça en 1880. Mais un aspect, donc, non, ce qui est intéressant chez Haeckel, donc c'est l'inventeur d'une des lois les plus. Enfin, qui couvre un petit peu toute la pensée contemporaine, qui est la loi dite de la récapitulation, selon laquelle, alors évidemment je répéterai, l'ontogenèse reproduit la phylogénèse. Alors qu'est-ce que la phylogénèse dans la perspective évolutionniste d'Darwin et de Haeckel? C'est la succession des espèces depuis l'amibe jusqu'à l'homme. Donc c'est l'arbre généalogique de la vie. Qui est donc du phylum, chacun appartient à un phylum, avec en amont ses ascendants et en aval ses descendants qui ne nous ressembleront pas, bien entendu. Et cette phylogénèse, on la retrouve dans l'ontogénèse, c'est-à-dire dans la formation de l'embryon. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un des arguments qui sert dans le cadre de l'avortement. On dit, de toute façon, le fœtus est encore au stade reptilien, est encore
au stade. Ça pourrait aussi bien s'orienter vers un pluvier doré que vers une limace.
Voilà, donc quand on en est qu'à quelques semaines, de toute façon, ça n'est pas un homme qu'on tue, c'est un reptile, un poisson.
Pour le résumer, si vous voulez, à ma façon, vous allez me dire si je me trompe, je comprends que, à l'état d'embryon, tout être vivant a. À un moment donné, la même apparence. Voilà, c'est-à-dire que ce soit un embryon d'homme, de chat, de rat ou de pluvier doré.
Voilà, l'embryon parcourt les grandes étapes
et
de
puis,
la.
Et ensuite, il se transforme et il devient.
De la phylogénèse des vertébrés.
Ça, c'est la théorie.
C'est la loi d'Haeckel, qui date donc des années 1865-66 et qu'il a publié, lui, en 1874. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que cette loi de Haeckel est fausse. Et dès 1868, un zoologiste de Bâle, Zutti Meyer, avait dénoncé Haeckel en disant « Mais il a, pour démontrer cette loi, il a dessiné des embryons à différents stades de développement. Et alors, il a pris de salamandres, poissons, chiens, vaches, pigeons, hommes. Alors, on voit qu'à un stade très précoce, tous ces embryons se ressemblent.
Et puis, à un stade intermédiaire, ils commencent à se différencier. Et puis, évidemment, à la veille de l'accouchement, ils sont tous ressemblants à l'adulte. Et alors, évidemment, ces dessins pris pour des dessins d'anatomistes sont extrêmement convaincants. Ouais. On se dit, bah, évidemment, au départ, tous se ressemblent puisqu'ils proviennent, évidemment, ils ont la même phylogénèse. Ils proviennent tous du même proto-vertébré qui n'avait que des organes peu différenciés. Et puis, petit à petit, les organes se différencient. Alors, Rutimeyer avait dit, mais ces dessins sont des faux. Et un peu plus tard, Adam Sedgwick, en 1873, qui est donc juste avant de mourir, Sedgwick est un géologue qui était président d'ailleurs longtemps de la Société de géologie à Londres, qui était le professeur de géologie de Darwin. Et c'est lui qui était tout à fait anti-évolutionniste. D'ailleurs, il a écrit une lettre extraordinaire, mais ça, je ne peux pas en parler. Après la publication du livre de Darwin, il lui a écrit une lettre d'une page qui est extrêmement profonde, très intéressante, et il va au fond de la question. Et c'est lui qui a dit, mais Haeckel se trompe, on peut reconnaître un embryon de deux espèces différentes à n'importe quel stade, un aveugle serait capable de les reconnaître. Bon. Il n'empêche que Haeckel a donc été traduit par ses pairs. Il était professeur à l'université de Jena, il a été traduit un petit peu en jury, et ses pairs l'ont condamné pour avoir fait des faux. Néanmoins, les dessins de Haeckel ont figuré dans les encyclopédies d'anatomie, etc., jusqu'à ce jour, ouais, puisque en 1985, il y avait encore dans un manuel américain d'embryologie exactement les dessins de Haeckel.
C'est d'ailleurs en dépit qu'il ait été pris la main dans le sac de l'imposture scientifique, un siècle plus tard, il est toujours présenté par certains
évolutionnistes
comme une figure de...
si vous voulez, il a fraudé, mais il a quand même raison, parce qu'il faut qu'il ait raison.
C'est ça.
Parce que s'il a tort, si vous voulez, c'est tout l'édifice intellectuel de la société moderne qui s'écroule. Ouais. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que la fraude dans les sciences, ça peut durer longtemps, mais ça ne peut pas durer, c'est l'histoire, on peut mentir longtemps à quelques personnes, etc.
Bien sûr.
Et il y a donc un médecin anglais, Dr Richardson, qui enseigne l'anatomie à l'hôpital Saint-Georges de Londres, qui de 89 à 95 a fait des études comparées d'embryologie pour vérifier tout simplement la loi de Haeckel qu'on affirmait, qu'on reproduisait, qu'on répétait sans la vérifier. Et puis il s'est rendu compte évidemment que les embryons sont extrêmement différents, que l'ordre d'apparition des organes entre des vertébrés n'est pas le même, que dès le stade précoce auquel Haeckel avait dessiné ses embryons, ils sont très différenciés. Et d'où il dit la chose suivante, mais comment Haeckel a-t-il fait pour dessiner ses embryons? Tout simplement, il a pris un embryon humain, et puis, pour les autres vertébrés, il a recopié le même embryon et les petites variantes.
C'est un trucage minable.
C'est le faux par excellence, le faux à l'état pur. Mais ce faux a tenu le coup pendant plus d'un siècle dans l'enseignement universitaire. Alors ça, c'est quand même intéressant et prodigieux.
Ça montre bien que, là encore, le système de connivence fonctionne. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est un mensonge, mais tout le monde fait semblant d'y croire parce que ça arrange tout le monde.
Ça arrange tout le monde. Et puis, c'est tellement... Si vous voulez... ça paraît vrai quand on y réfléchit. C'est le danger, ouais. Si vous voulez, c'est l'idée qui part elle-même, c'est l'idée claire et distincte qui
alors
paraît
que,
vraie.
Alors que c'est une idée satanique par excellence, puisque c'est une idée qui tendrait à dire, au fond, Dieu n'a pas beaucoup d'imagination, il a fabriqué un truc au départ, toujours le même, et puis après ça se débrouille pour évoluer comme ça veut. Quoi. Mais là, la responsabilité divine, là-dedans, elle est à peu près nulle.
Ben oui, mais c'est l'idée générale de l'évolution progressive, de toute façon. Mais c'est une idée qui va très loin, parce que dans tous les domaines, on analyse, si vous voulez, les défauts comme des retards. On analyse les sauvages comme des primitifs. Ce qui ne correspond pas du tout à la réalité ethnologique. On analyse le
oui, mais ça marche encore. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on prend un sauvage et qu'on le forme, il va devenir un homme en costume trois pièces avec des lunettes cerclées d'or et un attaché-caisse.
Oui, mais c'est une idée qui était déjà dans la Révolution française, si vous voulez. Ouais. L'idée qu'on s'achemine vers une société uniforme.
C'est
redoublé dans le mondialisme actuel où il n'y a vraiment plus qu'un seul modèle de civilisation. Mais ça, c'est sous-tendu par la thèse de Haeckel.
Voilà le genre de débat qu'on trouve dans la revue du Centre d'études prospectives sur la science. C'est passionnant, c'est une revue qui annonce la couleur, qui dit bien qu'elle est une revue qui applique, qui est inspirée par la conviction de la validité de l'inhérence biblique. Et ça donne des résultats tout à fait passionnants à la lecture.
Alors si j'ai encore une petite minute, je voudrais ajouter une chose intéressante, c'est qu'on voit, avec la loi de Haeckel, on peut prendre la main dans le sac. Alors évidemment, tout le monde sait que Teilhard, c'est un galimatien, incompréhensible, etc. Mais ça a eu une influence considérable. Beaucoup de gens, évidemment, sont teilhardiens. Ils sont même, aujourd'hui, tout le monde est teilhardien sans s'en rendre compte, puisqu'on n'a même plus besoin de dire Teilhard pour être teilhardien, puisque tellement c'est le teilhardisme, c'est Haeckel. Et enfin, dans les mêmes termes d'ailleurs, l'ontogenèse refait la phylogénèse, et on s'achemine évidemment vers un univers plus spiritualisé, enfin qui va converger vers le point oméga, le Christ terrien, etc. Or, Teilhard avait un confrère, le père Fesser, qui était également un jésuite de gros calibre, si on veut, et un jour, le Fesser, qui était quand même inquiet des idées de Teilhard, lui dit, mais enfin, cette loi de Haeckel dont vous faites tant de cas, est-ce qu'on pourrait avoir des références scientifiques sur ce qu'elle vaut, etc. Alors Teilhard était en Chine à ce moment-là, il lui dit, bon, je n'ai pas mes sources sous la main, Cinetti a dû écrire quelque chose dans la revue de Bruxelles, mais au fond, ça n'a aucune importance, parce qu'évidemment, cette loi est contestée sur le plan technique et scientifique de son énoncé, selon lequel la phylogénèse récapitule l'ontogénèse, ça n'a pas d'importance, parce que c'est l'idée générale qui compte, c'est comme un cas particulier dans l'idée générale, c'est comme le transformisme dans l'évolution, donc c'est vrai quand même, même si c'est faux, dans le cas particulier. Alors ça c'est quand même tout à fait intéressant, parce que toute cette loi est fondée sur ce cas particulier. Donc c'est vraiment là de l'imposition intellectuelle à l'état pur.
Vous nous indiquez l'adresse à laquelle on peut écrire pour obtenir peut-être un échantillon du CEP ou le commander, monsieur Prival.
Eh bien, si vous êtes intéressé, vous pourrez recevoir deux numéros successifs de cette revue à titre de prospection. Écrivez aux 4 rue de Beauvais, 91 410. Saint-Cyr sous Dourdan. Le téléphone est le même que celui que j'ai dit tout à l'heure et que je répète, 01 60 81 27 24.
Merci beaucoup.
J'ai une petite précision à ajouter à la journée de conférence. On a dit que c'était le samedi 6 mars, il faut le répéter, et que le prix d'inscription est 120 francs. Et que pour le téléphone du déjeuner, il faut que ce soit avant demain après-midi, donc, pour être certain de l'avoir.
Si vous voulez déjeuner le 6 mars avec Dominique Tassot, M. Prival et bien d'autres, vous téléphonez dès demain matin au 01 60 81 27 24 pour dire que vous serez là le 6 mars, rue de Sèvres, au
78A.
Merci, messieurs.
Merci, Serge.
On va donner la parole à la contestation pour finir. C'est un auditeur du boulevard Excellement, donc un voisin, qui nous dit « Rendre les scientifiques responsables du matérialisme est tout de même un peu fort. C'est la revanche des cancres. » Je précise que comme cancre, quand même, Dominique Tassot est docteur en ingénieur dont on sait mille choses. Ingénieur des mines, docteur en quoi ?
En philosophie.
En philosophie, ce qui était bien. Ouais. Après tout, si vous pouvez parler à la radio après être venu boulevard Murat en voiture, c'est bien aux scientifiques que vous le devez. Il y a peut-être Darwin, un faux scientifique, mais il y a aussi le professeur Lejeune. Disons que votre analyse est sommaire pour le moins.
Non, mais il y a la
sincère
technique.
Avec conscience et peut-être la force de l'âme. Science avec conscience et peut-être la force de l'âme.
Il y a la technique et la science. Et il faut bien distinguer les deux.
Enfin, en tout cas...
Mais bien entendu, je suis pas du tout contre le progrès technique, bien au contraire.
Merci encore.
Écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite CanalSat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
Très belle nuit à tous, merci de la passer en notre compagnie. Nous faisons un court interlude musical et nous nous retrouvons pour la seconde partie du libre journal de Serge de Beketch du 24 février 1999. l'instant l'air du froid de Purcell. Il était chanté par Klaus Nomi. À 5h, comme tous les dimanches, Radio Courtoisie cédera la place à Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Et à 6h, vous pourrez suivre Chant Grégorien, proposé par Patrick Banquien, président d'Una Voce. Mais pour l'heure, voici tout de suite la seconde partie du libre journal de Serge de Bekech. Il s'agit d'une archive du 24 février 1999. Très belle nuit à tous à l'écoute de nos programmes. Il est 3h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 24 février 1999, rediffusée dimanche 17 janvier 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Monsieur Philibert, bonsoir. Qu'est-ce qu'on a entendu
Alors, la première marche que vous avez entendue, ce sera la marche mystère. Donc j'attends des auditeurs qu'il me donne le titre de cette marche et qu'il m'en explique l'historique. Alors je vais simplement leur donner un petit élément. C'est une marche qui a traversé l'Atlantique et ensuite le Pacifique.
Qui a fait le tour du monde, quoi.
Qui a quasiment fait le tour du monde.
Et la deuxième ?
Et la deuxième, c'est Vent d'Écosse, du groupe Vae Victis, donc c'est du riff.
Ils sont très très bien, ces petites Vae
voilà.
Victis.
Et donc je tiens à signaler la compilation sur les terres du riff, qui est une compilation donc avec tous les groupes de riff qui existent actuellement. Vous avez
le
deux riff, chansons
c'est
par
le rock groupe. Identitaire français,
voilà,
je le dis
fait.
pour les gens qui vont nous téléphoner pour nous injurier. Donc au moins vous sachiez pourquoi.
Mais attendez, peut-on avoir les références du disque que vous avez passé tout à l'heure ?
Absolument, on pourra les avoir.
Donnez-nous les références.
Monsieur.
Alors la première marche, vous ne pouvez pas la trouver en France. Bon, puisqu'elle alors, vient d'un pays.
C'est très très mal de passer, de lancer des concours parce que les téléphonistes, ils ont 200 000 messages aujourd'hui et alors là, ils vont être complètement écroulés.
Et la deuxième, donc, ça s'appelle Vent d'Écosse et le disque s'appelle Sur les terres du Riff et vous pouvez le trouver à la SERP.
À la SERP.
Voilà, et si vous voulez un peu plus sur le nationalisme espagnol. 6 rue de Beaune, oui.
Ah oui, et si vous vous intéressez au nationalisme écossais, vous pouvez lire le très bon livre de Frédéric Schaeck, c'est vrai, qui est paru chez Prolégomène, qui fait un petit digest, comme on ne dit pas sur la radio de la francophonie, de l'histoire du nationalisme écossais. Oui,
j'ai une question pour lui, d'un auditeur. Que pensez-vous du super disque compact, du super sympathique crooner Jean-Paul Wojtyla?
qui a enregistré le pater en latin sur un rythme à mi-chemin entre le show, le slow et le tango. D'après RTL, qu'il a diffusé plusieurs fois, il paraît que ça va faire un malheur dans les discothèques cet été. C'est... Moi, je veux dire que je l'ai écouté, et c'était exactement comme on chantait dans l'église chez ma grand-mère, en pleine petite campagne. C'était exactement comme on chantait le pater.
Ouais, moi, je suis pas de votre avis. Moi, je trouve ça totalement démoniaque, et je pense qu'effectivement... Effectivement, ils vont danser le rock là-dessus.
Mais c'est pas
enfin, le rock,
c'est...
le slow là-dessus.
C'était le rythme, c'était comme ça qu'il le chantait.
Le curé qui a lancé...
Le père Jarro.
Eric Hazel.
En polonais, le slow, ça s'appelle danser les draps. Pas. Autrement dit, essayez à la verticale ce qui se passe à l'horizontale.
C'est une cochonnerie.
Et là, je pense que.
Et c'est pas par hasard.
Carole Voigt-Témoin, c'est
mal
tourné.
Écoutez, on fait pas un slow avec le Notre Père quand même. Vous êtes malade, ma parole.
Mais je vous jure que c'était comme ça.
C'est répugnant,
c'est
pour vous. Non.
Mais
pas avec ce rythme de taré.
Exactement.
C'est une cochonnerie.
Mais je vous chante.
C'est une. Oui, faites ça, tiens, vous êtes viré immédiatement. C'est une cochonnerie obscène. Et que le pape, qui est.
Enfin,
on a tendance à penser qu'il est devenu complètement gâteux pour se laisser entraîné dans cette mascarade abominable par un curton de Vatican qui s'appelle Néroni d'ailleurs. Moi je crois à l'importance des mots et des noms. C'est une histoire complètement diabolique. Faire un disque de musique de boîte de nuit avec
c'est
les
pas une musique avec... de boîte de nuit.
Ah écoutez, arrêtez, vous m'énervez là, Victoria. Je trouve ça répugnant cette histoire.
Ça pue
le soufre et le diable. C'est une cochonnerie qui est faite par des pourris, des ordures qui veulent. Mais viens, tout ce qui touche, ces espèces de racailles, ils foutent la merde avec. Ils ont les mains pleines de merde et ils salissent tout ce qui touche. C'est vraiment ces fricards, ces espèces de pourris qui tiennent le show business. Ça me dégoûte, mais à un point que vous pouvez pas imaginer. Ça me rend ivre de rage. Mais vraiment, hein, y a des moments où on se demande si... Alors, je préfère parler d'autre chose parce que je sens que je vais dire des choses désagréables. Mais véritablement, la pourriture qui s'est emparée de ce pauvre vieillard qui est parkinsonien et tout, d'arriver à transformer sa prière en une musique qui va être jouée dans les boîtes de nuit. C'est vrai que les radios pourries le matraquent à longueur de journée en ce moment. C'est dégueulasse. Amusez-vous à faire ça avec un chant traditionnel juif, vous allez voir ce qui va vous arriver. Transformez, une prière juive en slow ou en rock, vous allez voir comment vous allez être traité. Est-ce qu'ils feraient ça avec les chants musulmans quand ils ont fait la robe, quand cette espèce de PD là, a fabriqué cette robe avec des inscriptions du Coran. Le lendemain, il a brûlé la robe, il a brûlé les photos, il a présenté des études, ils étaient tous à plat ventre parce que les musulmans ont dit si vous supprimez pas ça, on va venir et on va vous les couper. Vous allez voir comment on va vous traiter. Ils se sont foutus à plat ventre. Ce sont des dégonflés. C'est de la racaille. Mais avec les catholiques, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire c'est le pape qui va toucher le fric, mais tu rêves.
Cher
Victoria, il y a une réponse. Il y a une réponse qui est dans la Sainte Écriture et ce sera le mot de la fin. Ça s'appelle mettre le manteau de Noé. Alors on va mettre le manteau de Noé, c'est-à-dire cacher l'ivresse du Père, parce que franchement là, ça dépasse les bornes.
Ça dépasse l'imagination. C'est une histoire.
Mais vous l'avez entendu.
On l'a entendu. Écoutez, Victoria, on va arrêter parce que c'est pas la peine. Vous n'aurez pas raison.
Moi, je chantais comme ça en 1932.
Eh ben, je sais pas dans quelle église vous allez.
Moi, je ne chantais pas comme ça.
Avec Pina Clémine, son éloi.
On ne le chantait pas pour danser. Enfin,
on voit le résultat.
C'est exactement comme
on
ça qu'il chantait.
On voit le résultat. Vous êtes une agnostique.
Je suis pas une agnostique et grâce à ça, j'ai su à 6 ans le paternoster en latin. Voilà.
C'est pas pour prier, voyons.
Mais si, on priait beaucoup, on priait bien dans cette église-là.
Il y a une instrumentalisation négative. Il y a une instrumentalisation négative de ce qui se passe.
Monsieur Arzel, heureusement que vous n'avez pas apporté votre fusil parce qu'il y aurait une caille qui aurait été abattue en plein vol.
Oui.
Parlons de la chasse et des écologistes.
Oui, puisque vous m'avez gentiment publié dans le Libre Journal sur la chasse, le Libre Journal qu'on peut se procurer pour des sommes très modiques.
Des sommes modestes.
Actuellement.
Moins cher qu'un disque de rock identitaire français.
Probablement, oui. Mais la chasse, c'est très intéressant parce que la chasse, c'est peut-être le truc qui est en train de faire comprendre à des millions de Français qu'ils ont perdu le contrôle de leur territoire. Et qu'ils ont même perdu leur manière de vivre.
Il s'est passé quelque chose de curieux récemment quand même. Justement, on avait l'impression que les chasseurs étaient les ultimes défenseurs de la, enfin faisait partie des ultimes défenseurs de la tradition. Et puis là, on a vu une espèce de, d'accouplement bizarre, monstrueux entre Combandi et un des responsables de Fédération de chasseurs. Ils sont allés se faire des papouilles. Qu'est-ce qui se passe en
non,
ce moment?
Non, c'est pas exactement ça ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est formidable. C'est-à-dire que le service d'ordre de la CGT et du Parti communiste a fait quelques jolies conduites de Grenoble à Monsieur Cohn-Bendit, au nom des chasseurs et puis au nom de la COGEMA, puis au nom de ci, puis au nom de ça, etc. Donc, il y a une bonne petite guerre entre la 3e et la 4e internationale, mais là, ça plaisante pas, là, parce que là c'est la vraie guerre. Hein. Donc, Cohn-Bendit est allé négocier piteusement la tranquillité de sa campagne. Parce que quand même, Cohn-Bendit partant dans la voiture du préfet, protégé par les boucliers des CRS, c'est quand même assez...
Il est passé directement de CRS-SS à SOS-CRS.
SOS-CRS, non, c'est quand même assez fandard, quoi.
Mais il est encore à la 4e internationale?
Bah bien sûr, Cohn-Bendit, ça, ça reste...
De toute façon, il appartient à une internationale, ça.
De toute façon, c'est obligé. Pas... Et d'abord, il faut bien qu'il soit quelque part, donc cet homme... Donc, ce pauvre Cohn-Bendit est allé négocier avec les chasseurs la tranquillité de sa campagne. En fait, c'est pas lui qui l'a demandé, mais c'est son frère, auquel on pense assez peu, qui s'appelle Gabriel Cohn-Bendit, et qui est le directeur de campagne, qui est l'intellectuel de la chose. Et en fait, les représentants des chasseurs, c'est-à-dire des fédérations des chasseurs, qui sont des associations très particulières, qui bénéficient d'un statut semi-public, enfin bon, ces fédérations de chasseurs sont en conflit ouvert avec Dominique Voynet. Et ils ont trouvé amusant d'instrumentaliser Cohn-Bendit pour pouvoir s'adresser à Dominique Voynet.
C'est une petite vacherie à la Voynet, l'inhabité.
C'est une petite vacherie à Voynet, qu'il a d'ailleurs pris comme telle, et qui s'y est pas trompé, bien entendu. Et elle déteste Cohn-Bendit joyeusement.
Bienvenue au club.
Bienvenue au club. Voilà. Donc ça c'était une petite baliverne médiatique.
Déteste Voynet ne peut pas être tout à fait mauvais.
Ne peut pas, oui, peut-être. Oui,
mais
oui.
Est-ce que, en dehors de... Parce qu'on a l'impression que finalement, autour de la chasse en ce moment, il y a une espèce de débat qui est en train de se créer, comme si la chasse était vraiment quelque chose de très très important en France en 1999. Qu'est-ce que c'est en réalité? Combien il y a de chasseurs en France?
Il y a 1 400 000 chasseurs, ce qui fait quand même beaucoup de monde, ouais. C'est certain, même si ça baisse tous les ans d'à peu près 5 à 6% chaque année.
Mais enfin,
non négligeable.
Il y a peut-être 3 millions de cyclistes et ça ne fait pas un lobby pour autant.
Oui, mais la chasse, c'est la vie et la mort. Quand on est à la chasse ou quand on participe à la chasse, on participe au grand mystère de la vie et de la mort, au grand mystère du règne animal, de qui mange qui est prédateur de qui, nous serons tous mangés un jour, et en attendant, nous pouvons manger. Alors on mange des animaux qui sont domestiqués, on attrape d'autres qui sont sauvages, et tout ça c'est absolument profondément inscrit dans la vie et dans la mort. Donc ce qui est en jeu, c'est véritablement une certaine conception. Conception de l'homme, conception de l'existence. Et bien souvent, les personnes qui rejettent la chasse, qui sont viscéralement hostiles, sont des personnes qui refusent la mort. Ce qui se comprend d'ailleurs. Mais je vous en prie.
François,
il y a un autre aspect des choses, c'est qu'on ne, on peut penser ce qu'on veut de la chasse, mais il s'agit de gens qui cherchent à l'interdire. C'est-à-dire qui cherche à disposer du gibier à la place des chasseurs en disant ce gibier est à nous, on vous interdit de l'abattre. C'est quand même la question de savoir qui a le droit de faire quoi.
Oui, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un animal. Est-ce qu'un animal appartient ou n'appartient pas, le statut, selon le droit latin, res nullius, selon le droit nordique, c'est un patrimoine commun. Bon, là, on va rentrer dans des débats qui sont peut-être un peu technico-juridiques. Mais c'est vrai que la question de la différence entre l'homme et l'animal est une question absolument essentielle à la civilisation. Au sens vraiment premier du mot. S'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, si l'animal devient finalement parce qu'il est plus habile, il vole, il nage, je ne sais pas si vous savez que dans l'esprit des Chinois, c'est le canard qui est l'animal parfait, parce qu'il marche, il nage et il vole, n'est-ce pas? Donc on peut considérer, et c'est la théorie nationale socialiste, on peut considérer que l'animal est un modèle. et que l'homme, finalement, doit trouver dans l'animal des leçons de cruauté, de puissance, de force, d'habileté. C'est de considérer une inversion du droit naturel, d'un droit naturel qui ne connaîtrait ni la loi de Dieu, ni le péché, ni l'obéissance.
Mais bon, ça c'est la philosophie de la chasse, enfin, le terreau philosophique, oui, sur lequel...
Parce que la chasse, évidemment, considère que l'animal est là pour le service de l'homme,
oui,
et que selon donc la Sainte Écriture...
Parce que l'Écriture nous dit, quand Dieu dit à Adam de nommer les animaux, ça veut dire qu'il en fait le propriétaire, le maître, car celui qui nomme est le maître.
Voilà.
Mais maintenant... Bon, ça, c'est, je disais, la partie philosophique de la chose, mais il y a une partie qui est bassement politique aujourd'hui. C'est-à-dire que les chasseurs, vous nous avez dit, sont 1,5 million, ils constituent donc une force que les différents partis essayent d'attirer vers eux.
Ça peut représenter entre 5 et 6 % du corps électoral.
Mais est-ce que c'est vraiment une force politique partisane? Je veux dire, est-ce qu'on peut dire, ah, les chasseurs, ils vont voter plus pour ça ou pour ça? Ou est-ce que les chasseurs, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, deviennent communistes, socialistes, RPR, Front National
Alors, c'est très curieux. On croit en général que le vote chasseur est plutôt un vote de droite. Et quand on analyse les choses de plus près, la masse des chasseurs est un vote de gauche. C'est un vote de gauche ouvrier. Un chasseur sur trois est un ouvrier. Et par exemple, les chasseurs de gibier d'eau, de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais, sont des ouvriers, sont des gens dont tout le bonheur est dans une hutte d'où ils tirent sur les canards qui passent.
Et pendant ce temps-là, ils
ne
vont pas au café.
Pendant ce temps-là, ils ne vont pas au café. Bon, très bien, bon, on fera pas de commentaires sur la hutte et bon, et puis les chasseurs du Sud-Ouest, alors là c'est le socialisme cassoulet. Le chasseur du Sud-Ouest, bah, il vote à gauche parce que c'est la région qui est comme ça et parce que c'est un droit acquis de la Révolution française de pouvoir chasser, ouais, ce qui est d'ailleurs tout à fait inexact, mais bon, peu importe, c'est dans leur imaginaire.
Et les chasseurs à court votent plutôt alors la guillée, je pense, parce qu'il doit y avoir une espèce de snobisme comme ça, croix de marde.
Oui, je n'ai pas, les chasseurs à court.
Son bouton.
Ce qu'il faudrait savoir quand même, c'est que il y a actuellement plus de gens qui pratiquent la vénerie, la chasse à court. Il y en a plus maintenant qu'avant la guerre de 14-18. Il faudrait quand même le savoir. Donc ça s'est énormément développé, alors que le nombre des chasseurs à tir a considérablement baissé.
Décidément, la démocratie se met partout.
Oui, finalement, on n'en sort pas. Hein, oui. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que la gauche actuellement, la gauche de Jospin, se rend compte qu'elle est en train de perdre une grande partie de son électorat populaire, car cet électorat populaire est chasseur et refuse que les lois soient faites contre eux à Bruxelles. Et ça embarrasse toute la classe politique.
Il y a vraiment donc une démarche de la classe politique, enfin d'une certaine classe politique, vers les chasseurs pour essayer de leur faire la danse du ventre.
Actuellement, les milieux politiques vont faire la danse du ventre, mais ils ne vont pas la faire trop loin parce qu'ils ne veulent pas non plus déplaire à Bruxelles. Ils ne veulent pas non plus à Strasbourg, au système formidable, etc. Il y a d'abord évidemment une certaine incompétence du monde politique à l'égard de tout ça, parce que les politiciens ne vivent pas dans les campagnes, ils connaissent pas bien le dossier, hein. Mais ils hésitent à l'instrumentaliser parce que s'ils appuient les revendications des chasseurs, eh bien ils s'en prennent à la construction européenne, comme on dit,
les acquis communautaires.
Les acquis communautaires et tous ces machins-là.
François possède parfaitement le texte, il est capable de vous écrire des traités de Maastricht.
Et alors, si aux chasseurs viennent s'ajouter les cultivateurs, eh bien ça commence à faire un petit peu de monde et ça commence à faire beaucoup d'intérêts et ça c'est la maîtrise du territoire. Ce que l'on fait chez soi, et de pouvoir sortir de chez soi avec un fusil et chasser des animaux sauvages, c'est un acte de souveraineté, c'est un acte de paix civile. On ne chasse que dans les endroits où l'on est en paix.
Surtout que quand on chasse les animaux, on n'a pas le temps de chasser autre chose.
On n'a pas le temps de chasser autre chose, voilà.
Comment expliquez-vous, là on sort un peu du domaine de la chasse, mais comment expliquez-vous que l'accumulation des mécontentements n'est pas un effet mobilisateur plus fort? Je m'explique. On a vu à Bruxelles les paysans qui ont manifesté pour la défense des intérêts paysans, enfin de leurs intérêts, ou la protection de leur survie, d'ailleurs, c'est plus ça que la défense de leurs intérêts. La plupart de ces paysans, sans doute, sont des chasseurs aussi.
Il y a malheureusement, parce que je crois que c'est très dommage, il y a malheureusement de moins en moins d'agriculteurs qui chassent, ce qui n'est pas un bon signe. Parce que je pense à un président de fédération de chasseurs qui a une terre ravagée par les nitrates et par l'industrialisation. Il n'y a rien à chasser chez lui, il n'y a pas un moineau, rien ne pourrait survivre là-dessus. Et il va chasser dans un autre territoire tout aussi artificiel qui s'appelle la Sologne. Et ce président de fédération de chasseurs est quelqu'un qui n'est pas complètement négligeable, enfin qui a un véritable poids, qui est véritablement installé. J'ai complètement oublié dans quel département il est. Je crois que c'est celui dont Bourges est la préfecture, mais je ne sais plus du tout où c'est. Aucune mémoire de ces choses-là.
Oui, comme moi, je n'ai pas la mémoire des lieux.
Pas du tout certain de ce que j'ai.
En fond, ce que vous dites là, c'est que on en viendrait presque à se dire que le système des friches n'est pas si mauvais que ça pour l'avenir de la terre de France.
D'un autre côté, le système des friches, il est le produit d'un système de subvention qui pousse à la production maximale et qui explique donc cet empoisonnement du sol.
Oui, je crois que ce serait une très grosse erreur d'avoir des réserves à Libye, d'avoir des friches à Libye, des jachères à Libye, où alors là, on aurait de la faune sauvage et puis ailleurs, on pourrait se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il y aurait des danseuses qui seraient des excuses pour faire des bêtises ailleurs, du transgénique, du nitrate. Du cochon élevé aux antibiotiques, il y aura bientôt un scandale du saumon d'ailleurs élevé aux antibiotiques, enfin
ah oui.
Bon, tout ça c'est tout, non là, il faudrait revenir à des choses très très raisonnables et là pour le moment on a vraiment une face nord en hiver à remonter pour recréer en France un paysage et un paysage signé dont la santé serait signée par une faune sauvage abondante et
Les chasseurs que vous rencontrez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils mettent leur passion, leur activité au premier plan ? Est-ce que c'est déterminant dans leur choix politique ? Par exemple, est-ce qu'on est chasseur avant d'être, commerçant ou artisan ou chef d'entreprise ou...
Je ne crois pas, c'est difficile à dire, c'est certainement une passion politique pour certains d'entre eux. Il va y avoir une liste qui va être créée pour les élections européennes CPNT, je crois que c'est une erreur. La chasse est sans doute une activité très profondément inscrite dans la nature humaine telle qu'elle est après le péché, telle qu'elle est avant le péché aussi quand Dieu donne les animaux à l'homme. La chasse est sans doute quelque chose de très important, mais enfin, ça n'a pas de réponse à donner sur la crise des Balkans, sur l'euro, sur tout ça. Enfin,
je
crois que les chasseurs se trompent en faisant une liste de chasseurs.
D'autant que dans la nature même, enfin dans le caractère à la fois profondément traditionnel, très 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 fortement chargé en symboles que vous donniez à la chasse, il y a une autre activité qui est plutôt en général une activité féminine, mais qui est un peu du même genre, qui est essentielle, qui est ancestrale, c'est la cuisine.
Exactement.
Et on n'imagine pas une seule seconde une liste de cuisiniers, enfin ça paraîtrait complètement
fou. Ça paraîtrait ridicule.
Ridicule.
De fromagers défendant le fromage au lait cru. Enfin,
alors on envisage sereinement, on trouve tout naturel l'existence d'une liste de chasse, nature, pêche et tradition, mais on trouverait aberrant de voir apparaître une liste cuisine et vin de France.
Oui, alors les CPNT se sont quand même sérieusement ridiculisés dans les différentes assemblées régionales, puisque par exemple c'est leur élu dans le Nord qui en s'abstenant, a réussi à faire élire leur archi-ennemi, Christine Blandin. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de maturité politique, même une fois qu'ils sont élus, ils n'apprennent pas grand-chose. Donc, c'est vraiment très 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 dommage.
Dernière question, une interdiction de la chasse en France, ça vous paraît une possibilité, une probabilité, une impossibilité, une utopie complètement folle ?
Non, c'est tout à fait impossible. Si on arrête la chasse en France, il va falloir arrêter de circuler en voiture. Parce que le sanglier, par exemple, se multiplie de manière extraordinaire. Il y a 100 000 collisions entre du gibier et des véhicules par an. Avec l'extension du maïs subventionné, toutes sortes de grands animaux trouvent une provende qu'ils ne trouvaient pas et se multiplient d'une manière étonnante. Et là, par exemple, pour prendre cet unique exemple, il y aurait un vrai problème de sécurité publique par la multiplication du grand gibier sur les routes.
C'est-à-dire que les chasseurs qui cessant de tuer des animaux et n'ayant plus rien d'autre à faire que de se promener sur les routes serviront enfin de gibier aux grands animaux
qui
pourraient se manger.
Ce qui est quand même consternant, c'est que donc les chasseurs maintenant, du moins certains d'entre eux, ceux du Sud-Ouest, se mettent à faire de la politique, et je ne crois pas qu'ils en fassent de la très bonne. Et en revanche, les hommes politiques ont voulu regarder ça comme une espèce de loisir, une espèce de passe-temps de ruraux attardés sans importance. sans mesurer la force que ça pouvait avoir. Et il y a eu quelque chose de très regrettable, c'est que au moment des différents votes, je ne rentre pas dans les détails, au moment des différents votes au Parlement européen, il y a quand même eu des absents et d'autres qui ont mal voté. Enfin, le groupe de Philippe de Villiers a voté avec les écologistes les plus acharnés, alors qu'on pouvait espérer que cette liste serait plus proche des réalités rurales. Je serais d'une discrétion de violette à propos d'autres parlementaires qui sont restés dans les couloirs et à la buvette au lieu d'aller voter, dont j'ai aussi complètement oublié les noms.
C'est dommage. Je pense que ça nous a
intéressé. Vous oubliez résolument.
Merci, Eric. Oui, François Guillaume.
On dit que le Sénat représente mieux les campagnes que l'Assemblée nationale.
Oui, bien sûr. Parce que Dominique Voynet regrette infiniment l'existence du Sénat, la surdimension rurale de la représentation nationale. Enfin, bien sûr. Oui.
Donc il y a peut-être des sénateurs qui savent de quoi ils parlent quand ils réfléchissent sur la chasse.
Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, il n'y a pas beaucoup de travail, malheureusement. Enfin, bon, nos hommes politiques ne travaillent pas beaucoup. Je pense que ce sont des choses qu'il faudrait laisser en dehors des assemblées parlementaires.
Entre autres choses qu'il faudrait laisser en dehors des assemblées parlementaires. Merci Eric. À bientôt sur un autre sujet de votre compétence. Ils sont nombreux.
C'est trop
y bien. Compris la danse polonaise. J'ai appris ça tout à l'heure.
N'est-ce pas, oui.
Comment ça se dit en polonais?
Les draps.
Wushku.
Les draps, oui. Voilà. Les draps, danser le slow, c'est danser les draps.
Donc le slow, c'est danser les draps. Ah, ouais. Vous avez entendu ça, Victoria, vous vous en souviendrez?
Mais moi, je n'ai pas entendu de slow tout à l'heure, j'ai entendu...
Ça y est, reparti.
Mais oui, je suis allée voir les téléphonistes pour des raisons de papier, de messages transmis, et nous avons chanté en chœur le paternoster, comme le chante le pape dans son disque, et comme elles le chantent toutes dans leurs églises, comme moi je le chantais
je sais pas
dans la mienne.
Vous fréquentez, mais
je ne crois pas vous ayez écouté.
Vous devriez faire
disque.
Une petite replongée à Saint-Nicolas, ça vous ferait pas de mal.
Mais à Saint-Nicolas, ils le chantent comme ça.
Bah ouais,
bon, il n'y a pas eu de question sur la chasse, non?
Mais vous allez avoir votre paquet, monsieur, il faut porter.
Alors, allons-y, après on passe
alors.
Arnaud Guillot-Jadin, il lui faut du temps. Parce que...
Ça, c'est monsieur Cohn-Bendit. Voilà, ça, c'est sur Cohn-Bendit. Donc, ça, c'est pas directement ça. J'espère que mon cher ami Serge de Beketch ne va pas prendre la défense des chasseurs français qui ne respectent pas la reproduction des espèces.
Vous savez qu'il y a trois sujets qu'il faut maintenant absolument éviter dans cette émission. Il y a le sujet qu'il faut éviter, ça on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, il y a la tauromachie.
Celui dont le nom qu'on a oublié, là.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, ouais.
La tauromachie et la chasse.
Et la chasse, oui.
Et si vous parlez de ce sujet-là, dont le nom ne me revient pas,
oui.
De la tauromachie ou de la chasse, vous êtes absolument certain, de toute façon, de vous fâcher à mort avec quelqu'un. Bon. Alors, comme j'ai déjà beaucoup, beaucoup d'ennemis, j'essaie de ne pas en surrajouter. Mais je vais quand même vous dire une chose. Là, je sens que ça va être foutu. Je suis un passionné de tauromachie. Et j'étais anti-chasse. Vraiment, jusqu'au jour où j'ai découvert la tronche des écolos. Et à ce moment-là, je me suis dit que vraiment, c'était pas possible, il fallait être pour les
chasseurs. Je crois me souvenir que nous avions ensemble dévoré des bécasses qui avaient été de nature à nous réconcilier avec...
Oui, mais moi, je pouvais penser qu'elles étaient mortes pendues.
Est-ce qu'on peut, Serge, néanmoins, parler de la campagne de diffamation qui a lieu en ce moment dans les médias, dans Libération, Le Monde, L'Événement, beaucoup de journaux que tu aimes beaucoup, vis-à-vis d'Antoine Wechter? Car Antoine Wechter est la cible en ce moment de Dominique Voynet et tout son clan
expiable.
Et considère presque Antoine Wechter comme un fasciste.
Ben oui, il est rentré dans le complot des rouges-bruns. Alors, donc ça nous fait un drapeau rouge-blanc-vert.
Alors,
rouge-brun-vert, ce qui est d'ailleurs pas très joli, il faut bien le dire.
Alors, il a publié quand même des droits de réponse qui sont passés sur France 2. Mais enfin, France 2 a fait, je crois, il y a deux semaines... un journal où on est passé de Antoine Wechter au frère de Jimmy Goldsmith, Edward Goldsmith, qui aurait dû principalement figurer sur sa liste, et puis on a terminé sur un reportage concernant Eichmann. Voilà, donc Wechter, de Wechter à Eichmann.
Ils sont parfaits.
Donc méfiez-vous de ce qui est dit en ce moment sur Antoine Wechter, et essayez de garder mesure, parce que Wechter et les écologistes, c'est pas la même chose que Cohn-Bendit et Voynet.
Non, mais quand les vers se mettent en chasse, ils ne reculent devant aucun moyen.
Oui, aujourd'hui, c'est la bécasse, c'est Wechter.
C'est vert, mais juste. Il y a d'autres messages?
Non. Monsieur, je ne suis ni pour Monsieur Cohn-Bendit ni pour Madame Voynet. Je déteste viscéralement les chasseurs.
Mais non, on peut pas détester les chasseurs. Ça tient pas debout. Il faut pas détester les chasseurs. Moi, on n'a pas le droit de détester les brins. On n'a pas le droit de détester
les viandards.
Les chasseurs. Pourquoi détester les chasseurs? Il y a des chasseurs qui sont des sales. Oui, et puis il y en a d'autres qui sont des gens très bien.
C'est une marque de civilisation que de savoir discipliner sa passion, la transformer en culture, en gastronomie, en art de vivre, en technique.
Et en plus, je vous signale quand même les chasseurs. Un avantage, c'est qu'ils contribuent beaucoup à la prospérité d'une petite industrie en France, qui est l'industrie des panneaux de circulation. Car s'il n'y avait pas de chasseurs, les panneaux de circulation arriveraient à durer des fois 10, 15, 20 ans, hein, avec la tôle émaillée. Grâce aux chasseurs, les fabricants de panneaux de circulation peuvent faire des affaires pratiquement tous les ans. Après la chasse, il faut changer les panneaux.
Alors, ce qui était assez drôle, c'est le président Pierre Dayan, qui est le président de l'Union des fédérations de chasseurs, à qui Cohn-Bendit a supplié, demandé, je vous en supplie, arrêtez les violences.
En échange de quoi?
En échange de rien, en échange de je vous parle, quoi. Et donc, je ferai le petit télégraphiste auprès de Dominique Voynet. Et alors, Cohn-Bendit suppliait que les violences soient condamnées, parce que cet homme n'a absolument aucun courage.
Il est pétochard, comme c'est pas
pétochard à un point inouï, quoi. Et alors, Pierre Dayan lui a répondu qu'il était d'autant plus à l'aise pour condamner les violences qu'en 68, il était déjà contre.
C'est joli, très joli.
Victoria. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit autour de 2 ou 3% de Français chasseurs qui empoisonnent la vie de beaucoup de gens.
Ah,
c'est un peu primaire de dire qu'être contre la chasse, c'est être contre la mort.
Je ne sais pas si quelqu'un a dit une sottise pareille. J'espère que
non. C'est le spectacle de la vie et de la mort qui se déroule dans la
chasse. Alors là, quelqu'un qui vous aime, là, non seulement l'offensive contre la chasse est ouverte, mais également contre le tir sportif. La Fédération française de tir sportif est en train de lancer une pétition car le tir sur des silhouettes animales en métal est en passe d'être interdit.
Mais non, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est ce que veut le pouvoir mondialiste, là c'est clair, c'est interdire la détention d'armes par les citoyens ou par les hommes et les femmes. Voilà, c'est tout. L'objectif est là, il est pour ailleurs. C'est pour ça qu'on en critique.
Ils veulent être les seuls à avoir des armes.
Ils veulent être les seuls à avoir des armes, bien sûr. Eux et puis. Voilà.
Il n'y a pas que Voynet qui soit contre la chasse. Il y a aussi Brigitte Bardot. La campagne n'appartient pas exclusivement aux chasseurs. Les promeneurs sans fusil ont le droit de s'y promener sans recevoir du plomb.
Oui, il n'y a pas un seul. Ça, c'est une campagne d'une campagne, parce qu'il n'y a pas un seul promeneur qui ait été blessé.
Les chasseurs ont plutôt tendance à s'entretuer. Ils ne tuent pas les civils.
Bon, les accidents sont des choses épouvantables et dramatiques. Mais enfin, il faut savoir quand même qu'ils sont en nombre extrêmement infime. Enfin.
Oui. Je l'ai dit, j'ai le souvenir d'un week-end de paroisse du côté de Mantes-la-Jolie où on avait 40 enfants de la paroisse qui nous couraient dans les pattes et on entendait les plombs qui sifflaient au-dessus des têtes. Avec le nom mon curé, on était quand même qu'à moitié rassurés. Hein.
Ouais,
il paraît qu'on avait droit à 7% de perte, mais on avait qu'une peur, c'était de dépasser le taux. Bon, parlons de la fascisme.
Je vois que j'ai été puissamment soutenu par les auditeurs.
Oui. Parlons du fascisme maintenant avec Drouillet-Larochelle. Non, avec Arnaud Guyot-Jeannin qui publie donc chez Perrin et Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e. Joli petit éditeur qui travaille bien, courageusement, intelligemment. Il fait plein de choses superbes. Alors donc, il publie Pierre Drieu-Larochelle, anti-moderne et européen, qui est un joli petit livre, pas cher, 49 francs, dès le prix tout de suite, qui est constitué pour moitié d'une...
En fait, en trois tiers. Il y a une partie qui est consacrée à l'antimodernisme de Drieu-Larochelle, une deuxième partie à l'européanisme de Drieu-Larochelle et une troisième partie à la mystique de Drieu-Larochelle.
Ah mais quand je disais deux parties, je voulais dire il y a une partie qui est une longue préface, non pas longue à lire, mais elle est longue, elle est copieuse, d'Arnaud Guyot-Jeannin et essentiellement des citations.
Extraites des livres de Drieu.
Alors c'est très drôle parce que moi j'ai toujours eu une relation bizarre avec Drieu. En réalité je le déteste et j'aime bien, c'est curieux. Il incarne absolument tout ce que je déteste. C'est-à-dire le dandy suicidaire, l'homme qui est toujours aux frontières, enfin aux lisières de l'ennemi, qui est, c'est l'ami d'Aragon, tout ça me répugne profondément. Et puis, cette espèce de culte de la décadence qu'il a tout le temps, cette adoration cette fascination. Oui, pour la décadence, pour l'ordure, pour la chose là qui pourrit, les odeurs de marais, tout ça. Et puis, à côté de ça, y a quand même l'homme qui a dit « Je préfère rester fasciste, bien que ce soit baroque et fatigant. »
Non, c'est Roger Nimier
qui avait dit ça, oui. Alors lui, il aurait pu l'écrire. C'est vrai que c'est Nimier. Il aurait pu l'écrire, mais il aurait écrit, lui, c'est ce que je voulais dire, « Je ne suis pas resté fasciste parce que c'est... Bien que ce soit baroque, mais parce que c'est fatigant.
Oui. »
Car on a vraiment l'impression que c'est un homme qui n'avait pas très envie de se fatiguer. être résistant.
Non, mais alors, ce qui est précisément, à mon avis, important dans cet ouvrage publié donc dans la collection Petite Bibliothèque chez Perrin et Perrin, et qui a publié d'autre part un Alphonse de Chateaubriand et un Louis de Bonald, c'est que j'ai essayé de montrer un autre visage de Drouet-La Rochelle que celui qui est précisément, en principe, montré par ses exégètes, voilà, par tous ceux qui l'ont présenté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le Drieux hanté par la décadence, le Drieux couvert de femmes, le Drieux dilettante, et de ne pas réduire Drieux à trois dimensions, le fascisme, les femmes et le suicide. Et alors montrer que Drieux, c'est autre chose que ce qu'on en a dit, à la fois à gauche pour le diaboliser, ou à droite quelquefois, ou à l'extrême droite parfois, pour l'encenser. Drieux-La Rochelle me paraît une figure éminemment aristocratique, éminemment grande européenne, qui n'a rien à voir avec l'espèce de personnage qui, il faut bien le dire, a été bien joué par Maurice Ronet dans Le Feu Follet. Je me rappelle que Jean Mabir avait dit un jour une chose qui n'est pas totalement fausse. Il disait, dans le film de Louis Malle, Le Feu Follet, Maurice Ronet est plus Drieux que Drieux. C'est vrai, si on a la vision d'un Drieux dilettante, misogyne, résigné, cynique, tout ce qu'on a pu dire de Drieux, alors effectivement, on pourra dire que Maurice Ronet est encore plus Drieux que Drieux dans le film de Louis Malle. Mais je crois qu'à la lumière des citations intégrées dans ce livre et de la préface qui en constitue en quelque sorte le corollaire, Drieux, ça n'est pas justement ce qu'on en a fait. Et il faut lire, à mon avis, essentiellement le livre de Jean Mabir, Drieux parmi nous, qui a été réédité, je crois, en 88 au Trident. Et il faut lire deux livres de Drieux pour s'apercevoir que tout ce qui a été écrit sur lui s'avère souvent tronqué ou faux. Note pour comprendre le siècle, édité chez Gallimard, et également Genève ou Moscou, édité chez Gallimard. Ce sont les trois ouvrages que je conseillerais principalement pour commencer à étudier Drieux.
Alors, ce qui est amusant quand on ouvre ce livre, Drieux-La Rochelle antimoderne et européen, c'est que le fait, toujours arbitraire, d'avoir sélectionné des citations,
sûr,
fait ressortir certaines tendances. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est Céline sans l'écriture. Et tout à, sans l'écriture célinienne,
bien sûr,
pas, il y a une écriture bien agréable. Mais notamment quand il parle de la décadence, quand il parle de cette espèce de côté à la fois désabusé, rageur en face de l'imposture généralisée, qui est très célinienne. Et puis alors quand on arrive à la fin, là c'est la partie la plus intéressante à mon sens, la plus nouvelle en tout cas pour moi, c'est la partie mystique. Ou alors on trouve des choses qui devraient plaire à François Plantet qui vient de nous rejoindre silencieusement. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas signalé sa présence à Jean Ferré, je ne savais pas qu'il passerait. Alors je l'indique maintenant, il est dans nos studios. Et c'est tout le discours qu'il a sur, enfin les petites phrases, plus exactement, c'est pas un discours, sur la présence à travers toute l'histoire de l'homme, de la vérité révélée.
Oui, et puis il a une vision véritablement cosmique.
Alors,
il a une vision traditionnelle et révolutionnaire, et on ne peut pas dire de Drieux que c'est un païen. Toute la volonté de Drieux, c'est de réconcilier, comme il le dit, le complexe païen et le complexe chrétien. Et il y a deux ou trois citations qu'on peut peut-être lire, qui vont à mon avis bien démontrer ce en quoi Drieux n'est pas un néo-païen abusif, panthéiste, matinée d'agnosticisme, et en quoi précisément c'est un vrai mystique, même si lui se prétendait peu mystique. Mais son souci permanent a été de s'élever au-dessus de lui-même pour arriver à transcender sa propre humanité et arriver à la supra-humanité.
Il y a une phrase que je voudrais citer parce qu'elle me paraît vraiment, je ne sais pas si c'est la même.
Mais peut-être la même.
Elle me paraît résumer parfaitement ça. Le christianisme a dégagé, taillé, posé, jointoyé pour en faire un édifice cohérent et entier tout le matériau qui était épars et informe dans les mythes, les rites antiques, les doctrines secrètes, les mystères et les opinions des poètes et des philosophes. Tâche si décisive d'ailleurs qu'elle mérite plus le nom de révolution, celui de la révélation.
Oui.
Plus que le nom de révolution, celui de la révélation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est extraordinaire d'arriver à résumer d'une façon aussi synthétique et aussi claire la formidable victoire du christianisme sur toutes les autres manifestations d'esprit religieux.
Tu viens d'évoquer le terme de révélation, il y en a une autre. Le paganisme véritable, celui des religions de mystère, a préparé le christianisme et celui-ci a sauvé, achevé et sublimé le meilleur de celui-là avec une puissance de sursaut qui appelle le mot de révélation.
Alors c'est étrange qu'un homme qui a eu une vision aussi forte de ce qu'est le christianisme et le catholicisme plus que tout, ce soit pas engagé plus directement. Enfin, soit pas... Il parle de la prière, à un moment il dit, voilà, on est dans le morde et la monotonie, moi je peux échapper à cela aisément par la poésie et la prière.
Voilà. Oui, ça veut dire que pour s'approcher de Dieu, une connaissance purement gnostique, enfin au sens qu'on n'aime pas, quoi, c'est-à-dire une stratégie gnosticiste purement intellectuelle fondée sur une connaissance livresque ne sert à rien. C'est que si on n'a pas l'amour qui fait qu'on affronte, parce que c'est dur hein, d'être catholique, c'est très dur. Hein, y a plein de gens qui ne veulent pas rentrer là-dedans parce que c'est très agréable de discuter de théorie. Là, c'est vrai qu'il a une vue, des conceptions qui ressemblent à celle de saint Augustin sur la pérennité de la religion chrétienne. Hein, mais c'est un raisonnement d'intellectuel qui ne rentre pas dans la connaissance amoureuse de Dieu, parce qu'il connaît mon nom, dit Dieu, je le sauverai, je lui ferai voir mon salut. Connaître, c'est le même mot pour connaître sa femme. Donc c'est une dimension d'amour opératif là-dedans qui manque, ça reste. On le voit souvent dans des auteurs de ce genre-là.
Mais je crois que Drieu n'a jamais voulu se faire passer pour autre chose que ce qu'il était. Il ne s'est pas prétendu ni catholique, ni grand mystique. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours cette volonté qu'il y a chez lui de ne pas vouloir rester à l'état humain et accéder à l'état de supra-humain, si on peut dire. Et évidemment, toute sa vie et toute son œuvre ne sont pas marquées par la religion, par la métaphysique, par la tradition. Mais il a, par exemple, lu Guénon assez tôt, il a fréquenté de nombreux auteurs traditionnels, de nombreux textes sacrés. Quand on lit même un roman comme L'homme à cheval ou un autre comme La comédie de Charleroi, ce sont des romans éminemment catholiques, héroïques, guerriers, chevaleresques.
Mais c'est ça. Alors, ce qui est intéressant dans les citations que vous retenez, c'est... Il y a cette figure, il a reconnu tout de suite, et naturellement on comprend bien pourquoi il a été tout de suite porté vers cette figure du Christ en gloire, du Christ en puissance, du Pantocrator. Il dit la figure vigoureuse, juvénile et puissante du Christ triomphant, aux côtés de qui est assise la Vierge Mère, n'a rien à céder en virilité et en santé au Dieu de l'Olympe et du Valhalla, tout en étant plus riche qu'eux, en secrets subtils qui lui viennent de l'Asie. Là, c'est encore une fois, il y a un résumé extraordinaire.
Et puis, on ne va pas abreuver que de citations, parce que j'espère que les auditeurs pourront se procurer ce petit ouvrage, qui est le petit livre gris et rouge sur Drieu. Mais une autre citation assez éloquente, on fait de Drieu un super Nietzschéen qui serait en quelque sorte le parangon du nietzschéisme, de la volonté de puissance, etc. Or, il a critiqué sur de nombreux points la philosophie nietzschéenne, et il est même allé jusqu'à écrire dans un de ses ouvrages, Nietzsche opposait injustement le christianisme actuel, qui est tout à fait dégénéré et imbécile, c'est entendu, sauf chez quelques artistes de génie, à un paganisme que la science de son temps n'embrassait pas aussi largement que la nôtre. Je crois que je le dis dans ma préface, Drieu était un homme paradoxal, c'était pas un théoricien, c'était pas un homme de connaissance, c'était avant tout un homme qui se détestait par moments, qui éprouvait toutes les limites de son humanité et qui sentait bien que c'était quand même pas assez pour faire une vie et qui a voulu précisément s'élever. Et puis il s'est vite rendu compte que sa connaissance métaphysique était effectivement plus livresque, comme disait le docteur Plantet, plus intellectuelle, mais avec en même temps une envie, mais une envie qui se conjugue à une incapacité. Les deux choses sont étroitement liées chez lui.
Ça me rappelle, ça me fait penser à ce que disait Mark Twain du travail. Il disait, je raffole du travail, je peux regarder travailler des heures sans me lasser. Il y a un peu de ça aussi. Hein.
Mais dans la citation que j'ai entendue tout à l'heure, il parlait de la prière. Alors comment est-ce qu'il concevait cette prière?
Et c'est ça qui est curieux. C'est justement, là, on n'en sait pas plus qu'il faut. Alors l'autre avantage du livre de Guillaume Janin, enfin du recueil de Guillaume Janin, c'est que...
C'est qu'il y a le recueil de Drieu, puisque en fait, moi je voulais établir les citations et préfacer le livre.
Un recueil de Drieu fait par Guillaume Janin. L'intérêt de ce livre, c'est que... c'est une espèce de guide qui conduit vers l'œuvre de Drieu. C'est-à-dire que quand on lit une citation qui nous paraît particulièrement intrigante, et c'est le cas de celle que vous venez d'évoquer, François, sur le rôle de la prière, on voit 23 et on peut se reporter. On voit que c'est dans son journal 1939-1945, édition Gallimard 92. Mmh. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, on peut imaginer que c'est développé dans ce journal, que cet aspect de la vie de Drieu, que moi j'ignorais totalement, mais enfin j'ignorais. j'ignore tellement de choses que ça prouve pas, ça prouve rien. Mais peut-être qu'il est développé dans ce bouquin. Et oui, en, puis, ça, en ce sens, c'est une œuvre pieuse que vous avez fait, mon bon Arnaud.
Je crois que le concept de Drieu est plus intéressant que Drieu lui-même. Les citations de Drieu nous permettent de nous éclairer et nous permettent de nous raffermir dans la connaissance que nous pouvons éventuellement avoir de Dieu. Ce qui est intéressant en même temps, c'est que Drieu n'est pas un contemplatif douillet. C'est qu'il a toujours la volonté de faire coïncider action et contemplation, tradition et révolution. En cela, il peut d'ailleurs être mis un peu à l'aune d'un Mishima qui disait que la pensée sans action était une obscénité. Il y a toujours chez lui volonté de mettre en accord ce qui apparaît comme contradictoire dans le monde moderne.
Il y a quelqu'un qui vous aime tellement peu qui vous rend responsable des bêtises que je dis. Vous voyez,
ah bon,
je vous donnerai son message. Bon. Il signe en plus, donc c'est correct. Et il faudra lui répondre, vous le connaissez, je crois.
Bon, on va voir ça. Et alors, d'autre part, il y a deux autres parties dans ce livre, dont celle que vous avez cité, donc la partie mystique, mais il y a la partie également européenne et la partie antimoderne. Dans la partie antimoderne, tu en as parlé tout à l'heure, il y a une critique sévère à l'égard des deux matrices de la modernité économicisantes que sont le capitalisme libéral et le socialisme marxiste. Et pour Drieu, le capitalisme et le communisme sont les deux mêmes matérialismes, la même réduction à l'économique. Et il va tellement loin dans sa description du communisme qu'il écrit « Le capitalisme vise à étendre sa clientèle à la limite de la population, alors pour lui, la clientèle, c'est le suffrage universel qu'il faut briguer. Et cela va plus loin encore, ses vues ne sont pas seulement démocratiques, elles deviennent communistes. Le capitalisme veut communiser la consommation, c'est-à-dire qu'il lui faut la rendre égalitaire. L'idée de standard ne veut pas dire autre chose. Pour que le capitalisme actuel accomplisse ses desseins, tout le monde doit acheter et posséder les mêmes biens, la même auto, le même costume, le même appartement, le même livre. » C'est écrit avant-guerre, ce sont, je trouve, des lignes très prémonitoires, très visionnaires. Parce que quand on voit l'uniformisation planétaire actuelle du capitalisme marchand qui est arrogant et qui détruit tout sur son passage, quand Drieu écrit ça il y a 60 ans, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une vision quasi prophétique chez lui.
Ça peut être parce que c'était déjà le cas il y a 50
ans. C'était déjà le cas il y a 100 ans. Bernanos écrivait même à la même époque que le Walkman, qu'il n'appelait pas le Walkman évidemment à l'époque, le casque écouteur, dans les années qui viendraient, existeraient. Donc, ils avaient prévu ça. C'est en cela que des personnages comme Bernanos, Antoine de Saint-Exupéry, Pierre Drieu-La Rochelle sont des prophètes.
C'est pas très difficile de faire des prophéties. Hein,
aussi, ils sont également.
Ils prévoyaient ce qui s'était passé au 19e siècle. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est exactement le contraire.
C'est pas très difficile de faire des prophéties. Il suffit d'imaginer le pire. Certains ne pas se tromper. Voilà, ça s'appelle Drieu-La Rochelle antimoderne européen. Et c'est paru chez Perrin et Perrin.
Alors,
il
peut
encore dire un mot.
Oui, parce qu'il y a une partie sur laquelle on n'a pas trop insisté, c'est la partie européenne, justement, de Drieu.
Oui, c'est exprès. C'est à dessein, mon cher Arnaud, je n'ai pas voulu insister là-dessus parce que je serais devenu désagréable.
Mais en même temps, tu sais bien que l'européanisme de Drieu ne se confond ni avec l'Europe des banquiers, ni l'Europe des marchands, ni l'Europe des financiers actuellement. Et que le nationalisme qu'il critique ne se fait pas à la manière de Bernard-Henri Lévy ou d'André Glucksmann.
C'est un fédéraliste et moi je prends les fédéralistes. Voilà.
C'est un fédéraliste dans l'esprit proudhonien, dans l'esprit intégral, dans l'esprit identitaire, qui montre en quoi l'unité européenne et la diversité régionale sont antithétiques du jacobinisme et en quoi le nationalisme détruit les identités collectives.
Enfin, c'est pas pour le droit constitutionnel qu'on peut
exactement.
Admirer Drieu-La Rochelle.
Exactement. Mais la critique du nationalisme par Drieu avant-guerre et pendant la guerre pourrait être assez comparable à la critique du mondialisme actuel, puisque le nationalisme voulait détruire les identités régionales pendant la Troisième République et bien avant, et le mondialisme aujourd'hui veut tuer les identités nationales. Donc on passe d'un stade d'uniformisation nationale à un stade d'uniformisation mondiale, mais c'est toujours la destruction des identités, des cultures et des enracinements populaires.
Merci, je rappelle Perrin et Perrin, l'adresse c'est rue Sainte-Anne, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e.
Perrin et Perrin, on va rappeler effectivement les références, Perrin et Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e, et je signale que dans la même collection est paru un Bonald fait par Michel Todat, ainsi qu'un Chateaubriand par Benoît Manchon.
Formidable Chateaubriand aussi.
Ah oui.
Moi j'adore Chateaubriand.
Oui, très intéressant.
Alphonse.
Alphonse,
aussi,
pas vrai, mais Alphonse.
49 francs, ça vaut vraiment pas le coup de vous en priver. Et il y a une belle photo de
Drieux jeune.
Drieux jeune.
Pendant la Première Guerre mondiale, c'était un combattant de la Première Guerre mondiale.
Mon cher François Guillaume, est-ce que vous voulez bien faire une petite translation horizontale vers la droite, pour vers la gauche, pour laisser la place à Pierre-Marie. Pierre-Marie est professeur de piano. Alors, je vais vous faire des confidences. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, moi, j'ai mis au point une méthode qui permet à quelqu'un de s'amuser avec un piano à l'issue de la première leçon. Je dis, tiens, mon œil, oui, c'est comme... comment. Il me dit, si, vous allez voir, je vais vous le démontrer. Et donc, j'ai fait un essai, et c'est vrai, voilà, c'est un truc tout à fait étonnant. Ça marche. Et on va en faire une petite, on va vous, tout à l'heure, vous montrer comment ça, non pas comment ça fonctionne, parce que vous pouvez pas le voir, et vous pouvez donc pas prendre de cours gratuits, pendant cette émission, mais on va vous montrer ce qu'on arrive à faire après une leçon, puis après deux, et peut-être après la troisième leçon. Et avant, je voudrais demander à Pierre-Marie s'il veut bien avoir la gentillesse de s'approcher du micro. Je vais poser quelques questions. Quel est le fondement pédagogique de votre méthode?
Ben, c'est une approche tout à fait différente. Qui n'exclut pas la forme classique, mais qui récupère beaucoup de jeunes adolescents qui sont dégoûtés un peu de la forme classique qui n'a pas changé depuis 200 ans, encore qu'il y a certains professeurs qui ont des méthodes extrêmement rapides pour apprendre les notes, mais moi, ma méthode, c'est sans aucune note de musique. Elle est déposée à la SACEM depuis 25 ans, et elle m'appartient. Je suis le seul, je le sais, dans Paris. J'ai un très bon pendule, et je sais que jusqu'à maintenant, personne... Il y a deux personnes qui ont essayé de m'imiter, mais comme ils ont reçu les huissiers de la SACEM, ils sont arrêtés. Et je suis absolument convaincu que j'apporte là la véritable dimension de la musique dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que la musique, ce n'est pas destiné forcément au conservatoire ni à la salle Pleyel, mais je garantis à la troisième leçon que vous pouvez jouer sur ma vie Charles Aznavour, Douce France de Charles Trenet, et si à la troisième leçon, quelquefois à la première, parce que Serge est très doué, si à la troisième leçon vous n'y arrivez pas, je rembourse les leçons, puis c'est tout, c'est pas un problème. Je veux dire que cette approche, c'est une pédagogie qui est destinée, sans une note de musique, à maintenir la motivation de l'élève. Pour moi, un élève qui n'a pas compris, c'est le professeur qui n'a pas su expliquer.
Oui, parce que la plupart du temps, ce qui rebute les élèves, c'est le fait que, au bout d'une leçon, deux leçons, trois leçons, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures de piano, ils n'arrivent toujours pas à jouer autre chose que des gammes, et ça enquiquine les parents, ça enquiquine les voisins, et puis ça lasse complètement l'élève.
Moi, ma priorité, à la deuxième leçon, vous jouez un mot Douce France, à la troisième, un autre, à la quatrième. Pourquoi? Pour qu'il y ait tout de suite une variété de morceaux différents. Sinon, si vous jouez pendant un mois Douce France, ça agace tout le monde et vous retombez dans le système classique, si vous voulez. Tandis qu'au bout de la dixième leçon, ces refrains, on revient aux refrains. Ceux qui ne l'aiment plus entre-temps, on les lâche, et les autres, on les complète.
Mais... Bon, ça c'est un truc, mais est-ce que ça conduit après à un apprentissage plus
alors,
élaboré?
Pourquoi? Parce que le programme, c'est d'abord un répertoire d'une trentaine de morceaux, mais c'est également apprendre l'improvisation, quand on fait du jazz, la composition, l'harmonisation. Qu'est-ce que c'est que l'harmonisation? C'est la main gauche, c'est-à-dire que quand vous entendez un morceau qui vous plaît, vous arrivez à le reproduire à la main droite, mais la main gauche, personne ne sait. Moi, j'ai trois approches différentes pour y arriver. Après, il y a la transposition, parce qu'il faut dire que je joue sur deux ou trois clés, je ne joue pas sur les 12. Parce que je joue sur des clés où il y a très peu de noirs. Vous savez très bien que en musique, dès qu'il y a des noirs, c'est beaucoup plus compliqué. Même dans la vie aussi, d'ailleurs. Mais je veux dire, donc, avec deux clés, ça suffit. Je commence par Do, où il n'y a pas une seule noire. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et à la première, à la première série de morceaux, on passe au stade supérieur. On s'attaque, par exemple, à Misty, d'Errol Garner. On peut s'attaquer à Over the Rainbow de Judith Garland qui chantait, bon, tout ce répertoire. J'ai une progression dans le répertoire et je ne fais pas faire de gamme. Pourquoi? Ben parce que je choisis des morceaux où le développement des doigts se fait naturellement. Pourquoi? Ben parce qu'il est tellement motivé. Les doigts, vous savez, les gammes, ça sert quand on joue du Bach, du Chopin, du Liszt, où c'est extrêmement compliqué, dans des tonalités très difficiles. Mais ce que j'apprends n'exige aucune gamme. Les doigts se placent naturellement. Il n'y a pas d'effort.
Alors, Pierre-Marie, que soyons bien clairs. c'est votre méthode, elle apprend à s'amuser avec un piano, mais elle n'apprend pas le piano.
Elle apprend plus que ça. Elle apprend les fondements de la musique. Le son précède la lumière, parce que le son conditionne pour recevoir la lumière. Dès lors qu'avec un morceau, même si c'est un morceau d'Aznavour, ça n'a pas d'importance, dès lors que vous développez une émotion intérieure, vous découvrez une lumière, une émotion intérieure. J'ai un père d'un élève qui m'a dit, si je comprends bien, vous vous shootez au piano. C'est vrai qu'on peut se shooter au piano, on atteint des dimensions extraordinaires. On atteint la mystique à travers des morceaux, même si ce sont des morceaux contemporains.
Oui, il y a un plaisir délicat et personnel à se mettre devant un piano et à arriver à en sortir des sons à peu près harmonisés.
Et puis c'est
valoir les applaudissements d'un public acquis d'avance. Mais là, je reviens sur cette question, pardonnez-moi de vous pousser dans vos derniers tranchants. Quand vous aurez eu un élève pendant, je ne sais pas, 30, 40 heures, il commencera à maîtriser parfaitement, enfin à maîtriser les morceaux d'Errol Garner, que vous lui aurez enseigné, est-ce qu'il va avoir un avantage vrai, technique, sur un élève qui va arriver chez un prof de piano classique et qui va lui faire faire des gammes 6 heures par jour? Et quel avantage aura-t-il?
C'est deux choses différentes. C'est Mon ça. Élève n'a pas besoin de faire des gammes 6 heures par jour, il ne joue pas le même répertoire.
Alors, on est bien d'accord.
Bon, ensuite, la musique que j'apprends, c'est un centre d'animation. Si vous allez chez des amis, chez des copains, et que vous jouez les feuilles mortes, tout le monde reprend, on chantonne, c'est mignon, c'est gentil, on passe une bonne soirée. Si vous commencez à jouer la 5e de machin ou la 6e de truc, les gens vont subitement découvrir qu'ils sont fatigués et vont rentrer. Pourquoi? Ils ne sont pas venus écouter du classique. Le classique, c'est quelque chose de prodigieux dans le son. Mais ça atteint qui? La destination du classique est faite pour déclencher des émotions de l'esprit et découvrir d'autres dimensions. C'est aussi important.
Ouais, c'est-à-dire que quand on est dans une soirée entre amis et qu'il y a un piano, c'est évident qu'on ne s'attend pas à ce que le virtuose de service nous joue les nocturnes de Chopin. On préfère effectivement qu'il joue quelques standards, comme on dit, pour mettre un peu d'ambiance. Comme on faisait nous à la guitare en jouant.
Voilà, exactement.
En jouant quoi? Je vous le demande, messieurs. On va voir si vous êtes de la bonne génération. Jeux interdits, a dit François.
Par exemple, tu fais partie de mon répertoire.
Alors, il y a Jeux interdits à la guitare et la lettre à Élise au piano.
Bien. Oh là là, arrêtez la lettre à Élise.
Alors, Pierre-Marie, on va arrêter les discours. Ce que je vous propose, c'est d'aller vers le piano. Vous avez
je voudrais ajouter un aspect psychologique de l'individu. Il y a beaucoup d'adolescents qui, pour des raisons de nature, sont introvertis, sont un peu timorés. Dès qu'ils commencent à jouer au piano, ils s'affirment. Les copains les applaudissent, ils deviennent la vedette, ils prennent confiance en eux, ils sont un autre individu. Et ma faculté de faire de la morphopsychologie depuis 20 ans me permet de voir dans un individu tout de suite quelle sera sa sensibilité et comment je vais l'atteindre.
Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'aller à votre piano, car vous êtes venu, je le disais, avec votre piano. Ça me rappelle une vieille histoire, mais enfin, je ne vais pas la raconter, ça serait trop long. Donc, allez-y, allez vous installer. Vous savez que c'est la première fois qu'on va jouer de la musique en direct à l'antenne de Radio Courtoisie.
C'est une édition vraiment.
Alors, je vais vous expliquer. Passez le casque et on va continuer notre entretien à travers la vitre. Sans se voir. Est-ce que m'entendez-vous? Non, pas Miroska, mais Pierre-Marie. Oui, il m'entend très bien. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de vous transformer en votre propre élève, ce qui n'est pas très honnête, mais enfin, je sais que vous le ferez honnêtement, et de me montrer. On a passé une heure ensemble, vous m'avez montré comment on faisait. Alors, qu'est-ce que donne un élève normalement doué, c'est-à-dire pas moi, mais quelqu'un qui a des doigts, au bout d'une heure? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ça se joue avec combien de doigts? Trois doigts de la main. Vous pouvez parler dans le micro. Vous avez un micro?
Trois doigts de la main gauche et un doigt de la main droite.
Bon, ça va. Donc, il y a en tout six doigts qui n'ont rien à faire.
Ça, c'est le dernier exercice de la première leçon. Et le premier exercice, c'est...
Ben, ça, j'y arrive très bien.
Le deuxième.
Là, moins bien, déjà.
Le troisième.
On se rapproche de Paderewski, déjà.
Voilà.
Alors ça, donc, à la fin de la première heure, le jeune homme, ou à partir de quel âge prenez-vous les élèves?
À partir de 10 ans, bon, donc, à cause des doigts qui sont fragiles.
L'enfant de 10 ans qui arrive chez lui, il va pouvoir bien seriner ses parents pendant au moins une semaine, parce que, ou alors ils sont obligés de lui offrir une leçon par jour pour être tranquille.
Non, mais il peut également partir avec ce morceau.
Ah là, vous nous chambrez, là, pas le premier jour, quand même.
Ah si. Ah, j'ai eu plusieurs élèves, où, même celui, ou celui-là, ils choisissent, hein, mes élèves, moi, je leur joue 3-4 morceaux dans leurs possibilités, et ils choisissent le morceau. Il y a celui-là. Extrêmement facile.
Sur ma vie, je t'ai juré un jour que tu apprendrais le piano en une heure.
Non, il ne s'agit pas d'apprendre le piano en une heure, mais les premières bases, alors, qui encouragent à continuer, c'est ça le problème.
Ça, c'est la première leçon.
Oui. Hein?
Vous vous dites, un élève d'accord, normalement doué peut, au bout d'une leçon, jouer
il,
comme
il
ça.
Il peut arriver à ça, oui.
Alors, la deuxième leçon, ça peut donner quoi?
Oh, ça peut donner...
La mer.
Ou alors, Blue Moon.
On peut pas le faire swinguer un petit peu?
Oui, mais c'est plus l'élève.
Ça serait de la triche.
L'élève à la deuxième leçon, il va pas swinguer. J'essaie de l'imiter. Ou alors.
Il imite tellement bien l'élève qu'il fait même les fautes.
C'est le piano,
Ou alors, à la troisième leçon, c'est... Stormy Weather. Alors, on passe à la classe au-dessus en faisant...
Oh là là. Là, il y a au moins 5 ou 6 doigts qui s'y mettent.
Ou bien Over the Rainbow.
Vous êtes meilleur pianiste qu'angliciste quand même, hein.
Pardon ?
Vous êtes meilleur au piano qu'en anglais.
Pour les doigts, il y a un morceau extraordinaire. Pour le changement d'accord très rapide, faut s'y habituer.
Mais ça, c'est au bout de combien de temps ?
Ça, c'est à la dixième leçon.
Dixième leçon. Voilà, revenez nous voir, on va conclure. C'est quand même assez troublant. Je dois dire que pour avoir essayé, je vois que Pierre-Marie n'est pas, contrairement à ce que nous téléphone un de vos, si j'ose dire, collègues, vous n'êtes pas un escroc. Il dit c'est de l'escroc. Je le connais très bien. Lui, c'est un professeur de piano classique.
Et... Mais je ne connais pas une note de musique moi-même.
Mais hein. Voilà, c'est ça. Non, mais...
Alors, évidemment, je dérange.
Je voudrais dire à cet ami qui
sont convaincus depuis toujours que le piano, ça passe par l'étude classique et les notes. Voilà. Moi, les notes, ce sont des conventions, les notes. Ce sont des repères. Moi, j'ai les miens.
Je voudrais dire à cet ami qui s'appelle Guy, que je salue au passage d'ailleurs, qui est un artiste extraordinaire, un grand, très grand pianiste, mais c'est également un grand peintre, et c'est un être tout à fait... qu'il ne faut pas qu'il se mette en colère comme ça. On n'est pas en train de lui arracher le pain de la bouche. Je pense pas que Pierre-Marie et vous, mon cher Guy, vous ayez tout à fait les mêmes élèves. Pierre-Marie a des élèves qui veulent, comme ça, s'amuser, apprendre un peu de piano pour briller en société. Comme dans le temps...
Pour s'affirmer.
Pour s'affirmer. Et puis, bon, bah...
Et puis, découvrez, quand vous jouez, je ne me quitte pas, le père rentre en disant, mais je comprends bien, mais vous vous chutez au piano. Parce que, dans l'interprétation...
Ça vous a plu, ça, hein?
Oui, mais ça m'a plu comme expression, parce que l'élève avait les larmes aux yeux dans l'interprétation.
Ben oui,
tellement il le ressentait, tellement... C'est extraordinaire, c'est là où le son...
Écoutez,
la lumière. Alors, il y a un autre aspect ésotérique de la musique, il y a un message ésotérique derrière la musique. Et je le révèle.
Ça, ce soir, on en a eu un peu notre dose, les messages ésotériques. Vous voyez, on va peut-être. Autre jour, vous nous
faites ça.
Non, parce qu'on en a parlé avant, vous voulez absolument. J'ai peur que ça soit un peu plus.
Non, je voulais simplement comparer dans la composition où j'apprends. Il y a, dans la peinture, il y a trois primaires dans la peinture. Eh bien, en musique, il y a trois primaires également. Un accord, ce que j'appelle passif, si on prend le do. Un accord actif, qui est l'accord de septième. Et l'accord équilibrant, c'est la loi des trois, c'est la trinité, c'est la ternaire, c'est le fonctionnement de l'univers qui est basé sur le trois. Et si on ramène ça à la vulgarisation, on dit la thèse, l'antithèse et la synthèse. La valeur
c'était,
des trois...
C'était pas trop gnostique, ça va.
Mais symbolique.
Alors non, mais ce qu'il y a dans les accords, ce que j'appelle jumeaux, c'est qu'il y a exactement la représentation de l'androgynie.
Ah, ça y est, je le savais.
C'est-à-dire... c'est-à-dire l'équilibre d'un couple humain. Voilà.
C'est tout ce que je voulais éviter, qu'il nous fasse le coup de l'androgyne.
Ah bon, d'accord.
Alors Pierre-Marie, comment font les auditeurs qui seraient intéressés, qui voudraient vous contacter?
Oh ben, ils écrivent à l'émission Serge de Becquette, à l'attention de Pierre-Marie. Voilà. Ils me laissent leur numéro de téléphone et je les appellerai. Voilà.
Donc vous pouvez vous en... journal, vous téléphonez au Libre Journal et puis vous laissez vos coordonnées.
Voilà, et moi je rappellerai.
3615 Libre Journal.
Et moi je rappellerai, voilà. Et je rappelle qu'à la troisième leçon, s'il ne joue pas, alors je le rembourse, ça n'a
oui,
pas
c'est
d'importance.
Ça.
Voilà.
C'est intéressant.
C'est une certitude, ça.
La sécurité, c'est pour ça que je répète à Guy de Poitou que son accusation est vraiment trop violente.
Je dérange.
Non, mais je crois pas.
Mais dès qu'on parle d'ésotérisme aussi, on dérange.
Oui, voilà. Alors en tout cas, il ne s'agit pas du tout d'une escroquerie, tout simplement parce que Pierre-Marie vous dit, vous essayez, si vraiment vous accrochez, ben, ça va. Si vous n'accrochez pas, au bout de
vous n'avez rien perdu.
On arrête et vous rentrez chez vous. Vous avez perdu 3 heures avec un homme pas désagréable quand il n'est pas branché androgyne. Parce que là...
non, mais j'avais des choses extrêmement importantes.
J'en doute pas une seule seconde.
C'est peut-être pas le moment.
Est-ce que vous voulez laisser votre place, non pas que je vous chasse, mais je voudrais passer à un tout autre genre de discipline. Merci Pierre-Marie de vous être dérangé avec votre piano. Qui est, c'est pas un queue, hein,
clavier,
c'est même pas un demi-queue d'ailleurs.
C'est un clavier.
Guy Le Hideux, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Guy Le Hideux, vous êtes collaborateur de Présent, vous faites des papiers sur la bande dessinée.
Voilà, oui.
Et vous êtes également l'animateur d'un groupe qui est en train de se constituer et qui est bien sympathique, de jeunes dessinateurs non conformistes.
Délit d'image, c'est le nom de l'association, on en a déjà parlé sur cette antenne plusieurs fois.
Et alors ça y est, on parle de bande dessinée, François Plantet s'en va. Bon, et alors on inaugure là une nouvelle rubrique qui sera, on va essayer de la faire mensuelle.
Hein. Ah, il faudrait bien parce
vous
que,
nous parler
Serge, si vous permettez, sur d'autres radios, et pratiquement toutes les radios sont à gauche, elles ont toutes des émissions, ces radios, sur la bande dessinée. Il n'y avait qu'à Radio Courtoisie qu'il n'y en avait pas. Et dans notre famille, la bande dessinée est souvent assez mal vue.
Oh ben, c'est en passe d'être corrigé par l'activité notamment des éditions Triomphe, maintenant qui publient beaucoup de BD traditionnelles et qui vont certainement en publier bientôt des originales. Et ça, c'est très positif parce que c'est un moyen d'expression un peu limité, mais intéressant quand même. Alors, de quoi voulez-vous nous parler ce soir?
Non, mais je voudrais revenir un peu sur la bande dessinée et sur le côté un petit peu... On la met à écart dans notre famille de pensée. Je voudrais insister un petit peu là-dessus. Et même sur cette radio, j'ai entendu des gens qui en parlaient d'une façon très négative. Et je me bats depuis plusieurs années pour justement dire que la bande dessinée a une origine droite catholique. Tintin, Spirou. Et même Pilote au départ, puisque vous êtes bien placé pour en parler.
Ah ben oui, bien sûr, c'était à l'origine, c'était effectivement...
Voilà, sans parler bien sûr des
très édifiant la bande dessinée.
Oui, sans parler bien sûr des journaux tels que Cœur Vaillant, Fripounet, Bayard, etc. Donc de la bonne presse et des éditions de Fleurus. On arrive à 1968 et alors toutes ces éditions qui étaient catholiques, qui étaient à droite, passent à gauche. Et même Pilote, avec vous.
Moi je m'en vais surtout.
Vous en allez, oui. Et depuis, eh bien, la gauche a carrément mis la main sur la bande dessinée.
Oui, c'est-à-dire qu'à Pilote, les effets ont mis beaucoup plus longtemps à se faire sentir, parce qu'il faut dire qu'en 68, Pilote n'est pas devenu un journal de gauche, c'est devenu un journal de bande dessinée d'actualité,
oui.
Qui était aussi bien des actualités de gauche ou de droite, ça dépendait de la sensibilité des auteurs. Et ce qui a provoqué le glissement de terrain à gauche, c'est le départ de Goscinny. Quand Goscinny n'a plus été là pour, non pas pour imposer que ce soit de droite, mais pour imposer qu'une libre expression existe et pour imposer surtout le respect de certaines valeurs, à ce moment-là, ça a commencé à tourner carrément en jus de boudin.
Oui. Mais non, je reviens là-dessus. Donc, toute la bande dessinée est aux mains de la gauche. Maintenant, le Festival d'Angoulême, qui fête cette année son 26e anniversaire, est à gauche. Et les gens qui ne sont pas politiquement corrects ne sont plus invités ou sont rejetés, comme je l'ai été plusieurs fois. Parce que j'avais demandé mon accréditation en tant que journaliste de Présent, mais c'était peut-être un peu de provocation.
Ouais.
J'ai été refusé systématiquement et je sais que les éditions du Triomphe ont quelques petits problèmes au Festival d'Angoulême.
Mais vous avez même, on peut le dire, vous avez perdu un emploi à cause de vos
activités. J'ai perdu 6 emplois. Ah oui, six fois à cause de mes activités, soit de journaliste à Présent, soit parce que j'affichais mes idées, j'ai perdu des emplois. Et actuellement, je n'ai plus d'emploi. Plus du tout. Et je ne touche même plus les acédiques.
C'est bien ça.
Oui, oui, non, mais c'est...
Du temps où ça arrivait aux communistes, ils appelaient ça des Beruf Serbot, hein, ils en faisaient la une de l'humanité.
Oui.
Mais chez nous, ça passe tout, ça ne gêne personne.
Non, non, absolument pas.
Qu'un militant national puisse être exclu de toute activité professionnelle,
voilà,
pour les raisons de son engagement en militance, oui, c'est, ça paraît tout à fait normal.
Et encore récemment, j'ai entendu dire qu'au Festival d'Angoulême, on avait dit « Ah, le I2, oui, c'est le Front National, si jamais il vient ici, ça sera sa fête ». Alors, bon, on peut y aller en commando, peut-être.
Oui. C'est tout ce qu'ils attendent.
Oui. Bien, alors, on va quand même parler de l'actualité de la bande dessinée. J'aimerais peut-être terminer, parce que j'avais commencé à parler un petit peu de bande dessinée chrétienne il y a 15 jours avec notre ami Daniel Amiche, et puis la pendule était là et j'ai été coupé. Alors, j'aimerais parler des 5 albums de bande dessinée chrétienne que j'ai recensé cette année sur les 750 de la production générale. Vous vous rendez compte?
Oui, c'est beaucoup quand même.
Hein, ça fait combien en pourcentage?
Deux albums par jour ouvrables, ouais. À 100 francs l'album, ça fait 200 francs, il faut dépenser ça.
Alors, je ne les avais pas cités il y a 15 jours.
Vous avez l'air très dubitatif, mais très intrigué. C'est un lieu que vous ne connaissez pas du tout.
Extrêmement attentif.
Ah bon, non. Je revoyais les yeux d'Éric Arzel qui me regardait d'un air épouvanté. Je me demandais si c'est même peur. Ce que c'est que la bande dessinée.
Ah. Alors, la bande dessinée, c'est un savant mariage entre l'image et le texte.
Voilà.
Alors, quels sont les 5 ouvrages
de... Alors, voilà, les cinq ouvrages de bande dessinée chrétienne. Il y a eu un petit ouvrage, petit format d'une trentaine de pages, avec de très beaux dessins en couleur, d'un vétéran de la bande dessinée qui s'appelle Alain Dorange, mm-hmm, qui a 80 ans et qui continue de travailler, vous vous rendez compte? Les 35 heures et la retraite.
De sa retraite.
Voilà, exactement. Et c'est une vie du pape Jean-Paul II, ça s'appelle Jean-Paul II, pape de l'an 2000, publié aux éditions et aux éditions Amis de Vianney. Alors cet album, j'ai vérifié, parce que tous les albums que je vais vous mentionner, on n'est pas sûr de les trouver dans les bonnes librairies, même les bonnes librairies. Alors celui-là, vous les trouvez à la librairie, à la procure, ça c'est sûr. Le deuxième album s'appelle Le Grand Cerf Blanc, c'est la légende de Saint-Hubert, patron des chasseurs, entre autres. L'histoire de Saint-Hubert, 30 pages grand format en couleur, c'est un album souple, comme on faisait autrefois, mm-hmm, puisque maintenant c'est des albums cartonnés, mais j'aimais bien les albums souples. Ça, c'est un certain charme que les albums cartonnés n'ont pas. Les illustrations et le texte sont de Philippe Gloglowski. Et c'est une édition belge, une petite édition belge qui s'appelle les éditions Van de Terre. T-H-E-R.
Ah, pas Van de Terre.
Non, Van de Terre, une fois.
Sans s'assurer.
Le troisième album s'appelle En chemin avec Jean Berkmans, publié par les éditions Coccinelle BD. Alors, Jean Berkmans, c'était un jésuite belge.
Ben, c'est encore une fois, oui. Un autre qui est vrainiste, là.
Qui vivait au XVIIe siècle et qui a été canonisé.
Déjà, il faisait de la bande dessinée, ça.
Mais oui. Mais vous savez que les bandes dessinées existent depuis très longtemps. Je ne vais pas vous parler de l'histoire de la bande dessinée. Non. On y sera encore demain matin.
On ne va pas nous refaire le coup de la tapisserie de Bayeux.
Oui, voilà, exactement.
Et des vitraux médiévaux.
Mais simplement, les cathédrales, ce sont de véritables bandes dessinées. C'était destiné aux gens qui ne savaient pas lire pour comprendre les textes sacrés, entre autres. Enfin, de l'extérieur, en tout cas. Donc, En chemin avec Jean Berkmans, publié par édition Coccinelle BD, un scénario Paul Fostrois, c'est l'éditrice, Dominique Barre, et les dessins sont d'un tout jeune dessinateur belge, Patrick Van Dopen.
Mais c'est un monopole.
C'est un monopole, oui. Alors, les origines de la BD, c'est aussi... Oui. Au pays des frites et des moules.
Parce que c'est plus facile à comprendre.
Bon, on peut pas la rater. Ah, je voulais faire un peu culturel.
Avec qui on peut faire, parce qu'il est schnorr, lui.
Ah, je suis pas schnorr. Oui,
vous avez fait un livre magnifique sur l'île.
Oui, mais je suis pas schnorr.
Bon, ouais, vous êtes schnorr d'adoption.
Ouais.
Quand on a fait un livre sur l'île, on est...
Je suis né à Auxerre.
Eh ben, Auxerre, c'est au nord.
C'est au nord de Lyon, oui.
De Beaubaudieulasse.
De Beaucotteville-Lacy. Voilà. Quatrième album, Être chrétien, quelle aventure, à qui le dites-vous?
Ça, c'est rien de le dire, là.
Les Actes des Apôtres, édition Anne Siégé, c'est une éditrice, c'est pas belge, hein. C'est canadien.
C'est du Québec.
Et le cinquième album, je le nomme quand même, hein, c'est mon album.
Ben oui, Lille.
Dont je suis le scénariste. Oui, Lille, Cité de la Vierge.
C'est un très joli album. C'est vrai, il est bien dessiné, il est beau, ouais. et l'histoire est superbe. C'est tout à fait dans la tradition de ce qu'on aimait quand on était petit garçon. Les oncles Paul, ça commence par un miracle. Enfin, c'est beau.
Ah, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui.
Comme la vie, oui.
Oui.
Oh, si, il y en a tous les jours.
Oui.
publié par les éditions Favert. C'est un éditeur lillois et en France, vous les trouvez aux éditions du Triomphe.
Tout ça, toutes ces informations, on les publiera dans le 3615. Arnaud Maillet va être content, il va avoir plein de choses à mettre dans le 3615 Libre Journal.
Alors, l'actualité de la bande dessinée de ce mois de janvier-février. Alors, deux gros albums sont sortis, je vous les ai pas amenés parce que ça pèse quand même son poids...
Puis vous avez eu peur quand on vous les pique, surtout.
Ah non, pas du non. tout, pas du tout, non, non. Non, mais c'est lourd, parce que j'ai un petit problème...
En plus.
Oui, oui. Limbago. À nos âges.
Ah ben. Limbago, d'ailleurs, c'est un joli nom d'auteur de bande dessinée.
Oui.
De bande dessinée. Les aventures de Limbago et au pays des sciatiques.
Des sciatiques. Non, deux gros albums d'entretien, l'un consacré à Greg, une fois... Et l'autre, Jacques Martin, on peut dire une fois, puisqu'il est belge d'adoption.
Greg, l'admirable Greg.
Ah oui.
Qu'on salue,
ah, oui.
Vous savez que c'est un auditeur.
Ah, c'est un auditeur.
Bien sûr, Michel Greg.
Ah, je le salue.
Un auditeur très très attentif.
Est-ce qu'il habite au coin de l'avenue du Messie et de la rue dans les Brancards?
C'est lui qui avait inventé ça. Avec monsieur Van Catastrophen, donc.
Hein? Ah. Et 20% l'apostolat du commerce.
Alors, parce que François Plantet, entre autres choses, c'est un virtuose d'Achille Talon. Il connaît Achille Talon par cœur, absolument.
Alors, tiens, une question à poser à monsieur, peut-être, si je puis me permettre. Achille Talon, les origines.
Les origines.
Les origines d'Achille Talon.
Ah, c'est son père et sa mère, j'imagine.
Non, non, pas du tout.
Ah, non,
non, non, oui, bien sûr, non, mais les origines grecques, justement, c'est inspiré de qui, de quoi?
Du talon d'Achille,
pour le nom.
Ah, oui, ça, tu...
Non, 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 les origines grecques, c'est inspiré de monsieur Poche. De Alain Saint-Augan.
Ah, oui, c'est vrai, c'était monsieur Poche de Saint-Augan.
Eh oui, ça, Saint-Augan, c'est le créateur de Sigapus, entre autres.
Oui,
oui.
Sûr, hein.
C'est dommage qu'on n'ait pas le temps, je vous aurais raconté l'histoire de la carpe. Mais on n'a pas
Oui, oui, c'est vrai, moi aussi je pourrais vous la raconter.
Et Alfred.
Parce que... Oui, Alfred, le pingouin.
Oui.
Alors, ce livre d'entretien a été fait avec un journaliste qui s'appelle Benoît Mouchard, et ce livre s'appelle Dialogue sans bulle. Alors, Greg, bien sûr, raconte ses aventures depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui.
C'est avec, très bien fait, c'est très drôle.
Avec ses innombrables créations, et vous êtes cité, mon cher Serge,
un grand
cet
génie.
Album. Ah oui, oui, tout à fait. Et bien sûr, dans cet album, le journaliste pose la question avec une grande majuscule.
En êtes-vous?
Oui, voilà, voilà. Alors vous avez été dédicacé au BBR, vous avez écrit dans Minute, vous répondez aux interviews pour présent. Ah, vous rendez compte?
Ah, c'est épouvantable. Et cela dit, Greg s'en fout.
Oui, s'en fout royalement.
De sa première liquette.
Et alors? Deuxième album, on pourrait parler sur Greg pendant des heures et des heures.
Oui, on fera peut-être un jour. Je voulais qu'il vienne, mais il est très fatigué.
Oui.
Il faudrait aller chez lui pour faire une interview à domicile.
On pourrait peut-être l'enregistrer un jour.
On fera ça.
Deuxième album consacré à Jacques Martin, un autre grand de la bande dessinée. Cet album s'appelle La Voix, V-O-I-E, d'Alix, réalisé par Michel Robert, qui est aussi un journaliste. Ben, Jacques Martin, français, belge d'adoption, et maintenant suisse.
Oui.
Voilà. Je dirais pas pourquoi.
Non, bon, on ne sait pas d'ailleurs.
Non, on sait pas. Je pourrais peut-être vous le dire, mais...
Même avec Eric Herzl, n'en sait rien. Qu'est-ce qui peut pousser
la Suisse
à penser...
a supprimé les fonctionnaires dans les 3 ans.
Ah, c'est ça.
Alors Jacques Martin, c'est pas le Jacques Martin de la télévision, hein, non, pour les auditeurs qui ignoreraient.
C'est non, Jacques Martin. L'admirable Alix.
Voilà, Alix, Orion, Guy Lefranc, Jeanne, Arnaud. Jacques Martin dit beaucoup de choses sur Hergé dans cet album. Il dit que bah, Hergé est entouré, on le sait très bien, de nombreux collaborateurs.
Oui, c'est le mot d'ailleurs.
Hein? Avec un K. Et notamment un collaborateur avec un K, s'il faut dire, qui lui écrivait pratiquement tous ses scénarios.
Oui.
Qui s'appelait Jacques Van
Melkebeke.
Melkebeke.
Melkebeke. Parce qu'il y avait Jacobs.
Il y avait Jacobs aussi.
Excellent, Edgar.
Edgar. Mais ce Jacques Van Melkebeke.
Waterloo. Quand on lui dit,
oui, Jacobs.
Tu es sûr que. Ça, on dit Waterloo, on dit pas Waterloo. Ils disent non, non, on dit Waterloo. Mais tu es sûr? On lui disait, dit, oui, oui, moi je le sais, parce que la première fois que je suis venu ici, je suis venu en vacances.
et en wagon. Oui, ce Jacques Van Melkebeke qui est maintenant décédé, Hergé l'a connu pendant la guerre, puisque ce monsieur était rédacteur au Soir de Bruxelles. Et donc, il lui a écrit des scénarios, et puis ils ont continué de collaborer ensemble un certain temps. Et Jacques Van Melkebeke, très bon exercice pour les gens qui font de la radio, Van Melkebeke,
ouais.
A écrit aussi des scénarios
pour Jacques Van Melkebeke.
Oui, s'en sèche, archi sèche. Voilà. Donc un album que je recommande à tous les auditeurs. Cet album sur Jacob, c'est sur Greg.
C'est bien, et ben
peut-être encore un album, non?
Un dernier, j'ai pas vite, le temps. Vite, il nous reste 2 minutes.
Alors, toujours Greg, minutes. Scénarisé par Greg, le dernier Bernard Prince.
Ah, formidable.
Vous savez que Bernard Prince a été créé graphiquement par le grand Herman.
Herman et Greg, qui était un duo magique.
Voilà, Herman dessine aussi Comanche, c'est un western extraordinaire. Herman a cédé le pinceau et le crayon à Danny, et puis c'est Edouard Edance, qui a repris la série. Et là, Edouard Edance vient de sortir un album qui s'appelle Le Poison Vert, édité par les éditions du Lombard. C'est vraiment la grande dessinée, la grande bande dessinée d'aventure exotique, avec tous les clichés de l'aventure. Ça fonctionne à 100 à l'heure.
On peut recommander ça à nos enfants.
Ah oui, tout à fait. Là, oui, aucun problème. Avec Greg, il n'y a jamais de problème à ce niveau-là.
Guy, merci. Vous revenez dans un mois pour de nouvelles aventures de la bande dessinée. Un auditeur demande, le docteur Plantet est en présence, s'il peut donner des titres d'ouvrages clairs et précis sur les acides gras essentiels. Alors donc, le docteur Plantet nous dit...
Le livre de Donald Rudin et Clara Felix qui s'appelle Omega 3, The Nutritional Missing Link. L'éditeur,
on
peut le trouver chez Brentano, chez Smith, en demandant, ils font une recherche bibliographique, il est disponible.
Merci. Donald Rudin, qui était votre maître, je crois.
Exactly. Ouais.
À vous, ma bonne
Deux petites
Victoria.
Annonces. De la part de Valérie Delahaye, à la mer agitée, demain soir, le docteur Merlin sera présent au restaurant, donc 19 rue Campagne Première.
Non, pas ni 35 ni 19.
Je ne saurais jamais le numéro.
21.
21, c'est ce que je voulais dire. Donc pour la...
on s'en est aperçu.
Pour la réservation, ça c'est la seule chose intéressante. Pour la réservation, c'est le 01 43 35 56 64. Et puis, dans le cadre des rencontres Histoire et Mémoire, au pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel à Paris, le samedi 6 mars, à 16h précise, allocution du professeur Maurice Allais, Les Harkis, un impérieux devoir de mémoire. Et le dimanche 7 mars, à partir de 14h30, le professeur Maurice Allais dédicacera la réédition de son ouvrage de 1962, L'Algérie des vieux. Voilà.
C'est des seules annonces ?
Et puis, oui, j'avais du petit message.
Il n'y a pas d'autre chose.
On nous dit que la relaxe a été demandée par le procureur. On demande, dans le procès du sang contaminé, que les accusés n'avaient pas de responsabilité pénale ni aucun lien avec le délit, et qu'en plus, les victimes ont été mises en accusation parce qu'elles avaient conservé trop longtemps des produits de confort. Voilà.
Sympathique tout ça. Vous verrez qu'on finira par leur filer du fric pour se faire pardonner de leur avoir fait un procès. Merci à tous.
Attendez, une toute petite seconde. Il y a des gens bloqués actuellement dans un igloo à 3000 mètres. Je suis sûre que le pater et l'ave Maria y sont récités avec toute la ferveur nécessaire et sur le ton voulu.
Victoria, on peut le chanter, le pater.
Ah, ouais, mais pas maintenant. On a plus le temps, c'est dommage.
Merci, bonne semaine. La semaine prochaine, ce sera Lugan. Moi, je reviendrai dans 15 jours, si Dieu veut. Que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Une émission du 24 février 1999, rediffusée dimanche 17 janvier 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Elle a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.